Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de TFTC le podcast. À mes côtés dans ce studio, Sarah et Aurélien. Comment ça va ?
Bah ça va et toi ?
Ça va super.
Alors Sarah, t'étais déjà venue dans le podcast ?
Oui, en tant qu'invitée.
Exactement. Oui. Et en fait, on se connaît depuis, bah, je l'avais dit dans le podcast, on se connaît depuis Nike maintenant, ça fait un peu plus d'un an.
Exact.
Et je suis tes stories sur Insta.
Ouais.
Et en fait, je me suis dit, bah, elle parle bien de cinéma.
Merci.
Je la trouve drôle.
Sympa.
Okay. Est-ce qu'elle pourrait rejoindre la team TFTC ?
Bah écoute, on va faire un test, on va voir comment ça va se passer.
Et en plus, je t'ai donné une chronique bien glauque.
Une thématique, laisse tomber.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Paul. Alors, est-ce qu'on dit Paul Idy ou Paul Déby ?
Paul Déby.
Paul Déby. Ouais, ouais, pourquoi Paul Idy ?
C'était simplement un petit surnom que je voulais mettre sur Insta. Vous trouvez un petit nom, un truc.
Parce que c'était déjà petit quand même le tien.
Ouais, Paul Déby, il était pris. Il était pris
déjà.
Ouais, ouais, par plusieurs personnes. J'ai dû trouver une.
Et que deviennent les autres Paul Déby alors ?
Ils n'existent pas. Ils n'existent plus. Non, pour la vanne, j'avais fait quoi ? Je les avais tous contactés. Tu te rappelles de l'histoire des Josh ?
Bien sûr. Raconte cette superbe histoire, c'est très drôle.
Alors je crois que j'ai plus le nom de famille, mais c'est aux États-Unis un Américain qui s'appelle Josh avec un nom de famille.
Ok. Voilà.
Il a contacté toutes les personnes qui s'appelaient comme lui et leur a donné un lieu, un itinéraire dans le futur pour se battre et décider de qui aura le vrai nom de Josh. Okay. Donc j'ai fait la même chose.
C'était pas l'époque Facebook en plus, ça ?
Moi aussi.
Ouais, bien sûr. Alors est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas ?
Bien sûr. Alors je m'appelle Paul Déby. C'est pas Déby, hein, c'est Déby.
Ah putain, j'ai eu tout faux sur toute la ligne.
Tout le monde ouais fait la même erreur. Ouais. Paul Déby, je suis comédien, acteur et scénariste. Je réalise aussi à côté mes deux... vocation principale, c'est l'acting et le scénario.
Ça a pas mal explosé sur Insta là récemment.
Ouais. Ça fait un peu peur. Ça a pas mal marché et ça va un peu vite. Et j'ai une grosse problématique par rapport à ça, c'est de faire attention à l'image que je renvoie et pas tomber dans le côté trop Instagrammeur, influenceur et vraiment faire comprendre aux gens que je suis comédien, acteur. Que j'ai des projets dans lesquels je tourne. Et ouais.
Dans cet épisode, nous allons aborder un thriller sorti en 2013, Prisoners. Réalisé par Denis Villeneuve, Prisoners est un film réunissant à l'affiche Jack Gyllenhaal, Hugh Jackman, Viola Davis, Paul Dano ou encore Terrence Howard. Il raconte l'histoire de deux couples qui voient leur fillette se faire enlever lors d'un après-midi. Le père de l'une d'elles ainsi qu'un inspecteur de police se lancent alors dans une course contre la montre pour les retrouver, chacun avec des méthodes diamétralement opposées. Ce film est un succès critique et commercial, 122 millions de dollars pour un budget de 46 ainsi qu'un Oscar de la meilleure photographie. Et quand on repense à l'univers visuel du film, c'est complètement mérité. Alors la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film ? Dans quelles conditions l'avez-vous vu pour la première fois ? Et je vais commencer avec Paul.
Alors je l'ai vu peut-être un an après la sortie, je ne l'ai pas vu au cinéma.
Okay.
Je l'ai vu quand il était sorti en DVD à l'époque, 2014 ou 2015. Je sais que je l'ai vu la même année qu'Interstellar et ça m'avait, ces deux films qui m'avaient marqué vraiment à quelques mois d'intervalle, j'avais pris gif sur gif. Quoi. Une photo qui m'avait bien marqué dans le film.
Tu te faisais raqueter à la sortie du ciné ou...
Ouais.
Ah non, des gifs cinématographiques.
Ah oui, oui.
Ah oui, d'accord.
Pas des gifs, là.
Ah oui, d'accord. Oula. Ok, d'accord.
Moi, je rentre dans le truc en plus. Ouais, je vais raqueter aussi.
Je pensais que t'étais allé au ciné, tu faisais raqueter, tu faisais claque.
Non, mais tu es une énorme victime. Non, pas du tout. Non, juste visuellement, comme t'as dit, j'ai pris une claque. J'ai pris une claque. Le tout début, tu sais, sous la. Il y a beaucoup de pluie dans le film.
Exact.
Il y a beaucoup de très belles lumières et ça m'avait bien marqué. Tous les plans sont très soignés. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup interpellé. Et puis il y a cette scène sans spoiler dans le commissariat aussi qui te met un petit où il arrive à choper l'arme d'un flic, tu sais.
Ouais, il essaie de se tuer.
Et ouais, c'est ça, et il y arrive, hein.
Ouais.
J'ai spoilé le film 10 ans après. Non, non, il m'avait marqué. Ouais.
C'est marrant parce que je t'ai demandé 5 films. Alors, par malchance, tous les autres films avaient été déjà faits dans le podcast TFTC.
Ah ouais.
Mais ça tombe bien parce que Prisoners, c'est vraiment un des Dernier thriller qui m'ont vraiment marqué. Moi, j'ai eu la chance de le voir au cinéma quand c'est sorti en 2013. Et dans mes souvenirs, la dernière fois que j'avais vu un thriller aussi prenant, je pense que ça devait être Zodiac. Zodiac, c'est quoi? C'est 2007, un truc comme ça?
Ouais, c'est ça, je crois. Ouais.
Ça doit être dans ces eaux-là. Et aussi, ça m'a mis une claque parce que pour la première fois, j'avais l'impression de revoir une sorte de Seven Beasts.
Ouais, je suis d'accord.
Alors, c'est pas du tout la même histoire, mais dans l'ambiance, tu parlais de la pluie juste avant, dans l'ambiance un peu sale, un peu redneck aussi. Alors, il n'y a pas vraiment de redneck, mais tout ce truc un peu. On sent l'inspiration un peu Fincher, Seven avec Prisoners. J'avais été vraiment marqué par ça. Et aussi, je me souviens que j'avais été marqué par Jack Gyllenhaal parce que je le connaissais. Je savais qu'il avait joué dans Zodiac, justement. Je savais qu'il avait joué dans Brokeback Mountain, Donnie Darko, tous ces films-là. Mais j'ai eu l'impression, après avoir vu ce film au cinéma, de vraiment découvrir Jack Gyllenhaal parce qu'il offre une prestation qui est, enfin, il offre une prestation qui est incroyable. Et vraiment, je découvrais cet acteur. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour Jack Gyllenhaal à partir de Prisoners.
C'est presque un nouveau Jack, j'ai l'impression.
Exactement.
En fait, il est tatoué, il est hyper sombre, on dirait un vampire presque.
C'est ça, et c'était pas vraiment le cas avec ses films d'avant.
Non,
ses films
il faisait un peu plus, je sais pas, plus fragile, j'ai l'impression. Là, il est entre les deux. Il y a un côté où il est fragile, mais en même temps, t'as l'impression qu'il va vraiment tuer la Terre entière.
C'est ça, et puis après, il a un peu donné cette direction à sa carrière aussi, parce qu'on a des films comme... alors, Enemy, ça avait été tourné avant Prisoners, mais c'est sorti après. Mais il y a aussi Nightcrawler.
Nightcrawler, incroyablement sous-côté.
Ouais, voilà, et c'est un peu... Alors, c'est pas le même rôle que dans Prisoners, mais on retrouve quand même un Jack Gyllenhaal tourmenté.
Ouais.
Exactement. Donc ça m'avait marqué, et aussi... la découverte de Denis Villeneuve, parce que avant ce film-là, il avait fait Polytechnique et Incendie. Polytechnique, je l'avais vu à l'époque où j'habitais à Montréal. Mais là, on avait vraiment un Denis Villeneuve d'une autre dimension. On en parlera tout à l'heure, Aurélien. Grave. Mais c'était vraiment mes premières impressions. Et j'avais vraiment été marqué par le film quand je suis sorti de la salle. Sarah ?
Moi, j'ai été surtout... Alors déjà, je ne l'ai pas vu au cinéma, il ne me semble pas. Je l'avais vu chez moi. Mais au-delà de Jack Gyllenhaal, c'était plus le... Paul Dano, que j'ai appris à redécouvrir parce que moi, je le connaissais dans son rôle dans Little Miss Sunshine. J'avais beaucoup aimé déjà cette performance-là. Mais ce côté, là aussi, torturé, énigmatique, etc., c'est ça qui m'avait beaucoup marqué dans ce film-là. Les scènes de torture aussi, on en parlait tout à l'heure avec toi, Aurélien. Les scènes de torture que je trouve très explicites et qui te mettent très mal à l'aise. En fait, l'ambiance générale du film est ultra malaisante. Et c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué à l'époque et qui me marque encore aujourd'hui. Je l'ai vu il y a deux jours. Et c'est toujours aussi pesant, aussi malaisant. Et...
Alors dis-moi si c'est le cas, parce que moi je l'avais vu au cinéma à l'époque. Et là, ces derniers jours, je n'ai pas eu le temps de le revoir. Mais je me souviens que durant les scènes de torture, j'étais un peu pris, justement, comme tu disais, dans un entre-deux où il y a un côté, vas-y, défonce-le, qu'ils disent vite où est l'enfant. Et en même temps, ça fait grave de la peine et t'es gêné d'observer cette horreur-là, en fait. Quoi,
moi, j'avais plus d'empathie que de laisse-le tranquille, en fait. C'est un peu bizarre parce que moi, je trouve que très... En tout cas, personnellement, très vite, j'ai eu de l'empathie pour ce mec-là parce que j'avais l'impression que c'était pas vraiment lui le coupable. Et je trouvais ça trop simple, tu vois, que ça soit dès le début lui et ça y est, en fait, il se passe quoi, tu vois. Donc j'avais ce truc-là où j'avais l'impression qu'il y avait un autre coupable qui se cachait, etc. Et donc très vite, de voir ces scènes de torture, ça me dérangeait parce que j'avais de l'empathie pour le personnage de Paul Dano.
Alors là, vous l'avez vu chez vous, mais moi, par contre, j'ai un vrai souvenir de cinéma où la salle, elle était en tension. Ça, je m'en souviens très bien de ça. Où vraiment, il n'y a pas un bruit dans la salle. Les gens, ils sont accrochés par le film. Et il y a vraiment un truc où tu regardes les visages autour de toi. Et ça marque, quoi. Et je me souviens qu'il y avait eu des... Alors, dans l'ensemble, c'est des critiques assez positives. Mais il y a toujours des petits malins sur Twitter qui disent « Ouais, c'est de la merde, etc. » Et tu sais, parfois, je me dis « Comment tu peux dire que c'est de la merde, un film comme ça ?»
Comment tu peux... Ouais, vraiment, il n'y a aucune objectivité.
Ouais,
quoi,
ça m'énerve.
Ouais, c'est nul. Maintenant, si tu peux pas...
Oui,
c'est nul, quoi. Tout est
vraiment c'est vraiment personne intéressant.
Impossible.
Enfin, c'est pas un pot de chasse, ici. Aurélien.
Eh bien, moi, je l'ai vu au ciné. Pareil, un peu comme vous, hein, grosse claque. Je pense que c'était... ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un thriller, en effet. Je me rappelle d'avoir un peu les mêmes énergies, comme tu disais, de Seven, que j'avais vu au ciné aussi à l'époque. Et la même ambiance poisseuse et tout. Et moi, je trouve que ce qu'ils ont rajouté en plus dans ce film-là, Denis Villeneuve, et notamment les scénaristes, c'est le côté les familles, tu vois. Les familles des victimes et comment elles réagissent, chacun un peu à leur façon. Et comment ça crée un peu des facettes morales différentes et tout. Et ça, là, en l'ayant revu, et ça m'avait déjà choqué la première fois, c'est tu te mets tout de suite dans la peau de « Vas-y, ton enfant, il se fait kidnapper, là. » Tu réagis comme quel personnage, en fait. Est-ce que tu deviens violent? Est-ce que tu veux aller au bout? Est-ce que tu te dis à un moment « Non, c'est pas possible. » Est-ce que tu vas avoir l'impression que t'es trop heureux, en même temps, tu l'es pas assez? Est-ce que...
Alors justement, fondé sur...
Est-ce que la peine de mort est remise en cause, tu vois? Ouais. Ce truc qui revient, en fait, et qui est assez fort, je trouve, dans ce film-là.
Mais basé sur vos personnalités, vous auriez réagi plutôt comme la famille de Terrence Howard ou la famille de Hugh Jackman? Paul?
Bah, même dans les familles, ils réagissent différemment, tu vois. C'est quelque chose.
Toi, en tant que père, tu penses que tu aurais réagi comment?
C'est compliqué, je me suis posé la question. En plus, j'ai revu le film il n'y a pas longtemps pour le podcast.
Oui, forcément, parce qu'on se met à la place du gars. Quoi.
Et dans le couple, il y a la mère qui reste au fond du lit, se drogue avec des médicaments. Et puis, il y a lui qui remue ciel et terre et qui devient limite complètement fou pour trouver sa fille. Je pense que j'agirais comme lui,
Ouais,
je pense que j'agirais comme lui. Je baisserais pas les bras et je tenterais tout pour. Alors, j'irais pas torturer des gens comme il l'a fait, mais.
Après, tu sais même pas ce que tu fais. Dans
enfin, tu sais pas, tu peux pas savoir, c'est vrai. Ouais.
Moi, je me souviens quand j'avais vu le film, ça m'avait fait penser à l'affaire. Alors, de loin, mais à l'affaire du petit Grégory, parce que c'est ce que fait exactement le père en fait. Dans
ouais,
le... C'est-à-dire qu'il prend son fusil et il se dit, ok, c'est lui, il fait ce qu'il
après,
ce qu'il fait
à Paul Dano. Il cherche pas à lui tirer des infos, juste il va le buter.
Non, lui, il cache.
Il débarque, il fait ses toiles.
C'est la méthode française.
Donc, ouais.
Sarah, t'aurais réagi comment toi?
Moi, je pense comme la daronne de la famille, de l'autre famille. Ah, c'est, elle est là, elle dit.
Viola Davis.
Vas-y, fais-le. Mais je me mouille pas. Je pense.
Ok.
On verra ce qu'ils vont ressortir, mais on est plus dedans.
Toi, Aurélien, t'aurais été quel genre de père toi là-dedans dans cette affaire?
Moi, je pense que j'aurais été en sword, je pense. C'est qu'au début, je suis un peu dans le truc, je dis ok, voilà. Puis après, à un moment, je dis ouais, mec, c'est pas possible. Là. Enfin, je veux dire, on devient pire que les gars, en fait, qu'on est censé chercher, confronter, tu vois.
Moi, je pense que
je peux pas me dire qu'à un moment, je vais torturer un gars, même si le gars. Enfin, en plus, la position de là du gars, c'est genre, tu sais que. Enfin, je sais pas, moi, j'aurais fait confiance à Jacques Chinelol.
Ouais, enfin, attention.
Il a l'air sérieux, le frère.
Attention, il y a quand même un truc aussi qui fait que, c'est que dans le film, sans vraiment spoil. Il y a le perso de Paul Dano qui sort du commissariat et qui susurre à l'oreille de Hugh Jackman tes enfants n'ont pas pleuré, c'est allé très vite, etc. Et ça, c'est vraiment une phrase qui rend ouf. Donc, quand la police n'entend pas ça et que t'es le seul à l'entendre et que la police te croit pas vraiment.
Puis même après, il y a des bails, il joue avec le chien et tout.
C'est
sûr
qu'il
y a plein de moments où c'est bizarre et tu te dis, ok, lui, c'est un psychopathe.
Ouais.
Mais quand même.
En plus, ils lui font vraiment la gueule de psychopathe
bien
à Paul Dano.
Sûr. Ah,
genre les lunettes, tout ça, la gueule. Genre, il y a marqué Patrick Dills sur son visage.
C'est vraiment un truc, beaucoup de choses trappent dans celui-là.
Alors Aurélien, comme je le disais auparavant, ce film a vraiment lancé la carrière américaine de Denis Villeneuve, mais comment tout cela s'est-il opéré? À quel moment ce switch a eu lieu dans sa carrière?
Bah, tu en as parlé, c'est marrant parce que Denis Villeneuve a eu d'abord une grosse carrière au Canada, des films en français, enfin en québécois quoi. Et il a eu un gros trou, c'est-à-dire qu'il a fait deux premiers films à la fin des années 90, début 2000. Et après, pendant 10 ans, quasiment rien. Il a fait beaucoup de documentaires et de courts-métrages. Il a été réputé dans plein de festivals. Donc, ils s'en ont tourné beaucoup, mais pas vraiment de longs-métrages. Donc, disparition un peu des radars. Mmh. Et il sort Polytechnique en 2009, qui est un film donc, sur, qui est très québécois parce qu'il parle d'une, d'une tuerie à l'école polytechnique de Montréal.
Une histoire, ouais.
En 89. Donc, qui sort 30 ans après. 20 ans après, pardon. Et qui a été un peu... qui a marqué les esprits et qui a fait un gros score au box-office, mais surtout au Québec, en fait, où je crois qu'il y a eu 2 millions d'entrées.
Moi, je me souviens, quand j'habitais, quand je travaillais dans un vidéoclub à Montréal, j'avais vu, en fait, les Québécois là-bas m'avaient conseillé de regarder ce film, qui est en noir et blanc, d'ailleurs, dans mes souvenirs.
Exactement.
Et je me souviens que ça m'avait marqué, et je sentais que pour les Québécois, c'était une histoire marquante. Nous, on la connaît pas, cette histoire.
Ouais,
c'est
en fait,
mais pour eux, c'était vraiment, vraiment marquant. Bah, c'est un peu leur Bataclan, quoi.
Oui, c'est leur Bataclan. Et puis, c'est un peu comme le Columbine.
Voilà.
Ça sort plus ou moins en même temps que le Elephant de Gus Van Sant, qui parle de la tuerie Columbine et tout. Donc, c'est un film qui est un peu à part, mais qui va le mettre sur un nouvel échiquier qui n'était pas du tout son type de film auparavant. Et donc, ça va lui ouvrir des portes des festivals internationaux. Mais il reste quand même très ancré dans. C'est un cinéaste. Canadien, quoi, québécois, en langue québécoise. Et en fait, c'est vraiment Incendie qui va être son projet phare où il va donc reprendre une pièce de théâtre pour en faire un film à multiples facettes, à la fois hyper violent, hyper dramatique, presque une tragédie grecque, qui là va lui ouvrir les portes du cinéma américain, en fait, parce que les Canaries vont vraiment se le prendre en pleine gueule et vont le nommer aux Oscars du meilleur film étranger. Et c'est là qu'en fait, il arrive sur le paysage américain, parce qu'il ne gagne pas l'Oscar, mais un peu comme, à mon avis, Anatomie d'une chute, là, c'est une fois que tu commences à avoir à rentrer dans cet esprit-là, en fait, ça y est, Hollywood s'intéresse à toi. Et en fait, tu as deux façons, à mon avis, de réagir quand tu es comme ça. Par exemple, Azanavicius, il n'a pas voulu du tout, ou Jean Dujardin, ils n'ont pas forcément joué le jeu d'Hollywood.
Enfin, Jean Dujardin a un petit peu essayé, mais je pense que c'est l'accent qui bloque.
Ouais, et puis je pense qu'ils n'avaient pas forcément les personnalités ou ils n'avaient pas l'envie. Alors
je pense qu'il est trop Frenchy. En fait, je crois qu'il avait dit en interview à Dujardin, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire du cinéma en France, quoi, je m'en fous des
États-Unis. Je pense qu'il y avait un gap culturel qui était trop, trop important. Alors que là, je pense que dans les 9 ans où il a bien réfléchi, Denis Villeneuve, quand là, il voit qu'il y a une possibilité de faire. Lui, il était intéressé par des films de commande. Donc, c'est là où, en fait, il a deux projets en même temps. À la fois Enemy, comme tu disais, qui est prévu, en fait, avant, qui va bosser avec un producteur canadien.
Puis attention, parce que les Québécois aussi, il faut dire qu'ils sont pratiquement tous bilingues.
Bah, bien sûr.
Ils parlent très bien anglais, donc c'est pas vraiment le même rapport que les Français, quoi.
Non, et puis je pense que le fait qu'il va avoir un projet comme ça qui va être multiculturel et en même temps qui va faire cette rencontre avec Jake Gyllenhaal, justement, pour bosser sur Enemy, qui cherche justement à faire du cinéma un peu plus indépendant et qu'en même temps, il va répondre OK. Au film de commande, en fait, Prisoners, ouais. Qui n'était pas du tout prévu pour lui à la base, qui c'est pas lui le scénariste. Je pense que tu en parleras peut-être après, ouais. Les anecdotes, mais vraiment, genre, c'est passé par plein de mains, et au final, lui va décider d'en faire un vrai film américain, et il va réussir à tous les niveaux. Et en fait, le fait qu'après cette carrière folle qui va l'emmener vers la science-fiction, d'abord vers Sicario, puis vers Blade Runner, Dune, etc., et Premier Contact, c'est grâce à Prisoners qui est réussi sur toute la ligne, et surtout au fait qu'il a réussi à intégrer les acteurs qui étaient prévus par le producteur à la base, donc Hugh Jackman, etc., qu'il arrive à ramener Jack Gyllenhaal avec ça s'est très bien passé sur Enemy, et qui va réussir le coup du siècle, on en a parlé déjà, la photographie de Roger Deakins, qui est les DOP de notamment des frères Coen, qui est ouais. Un génie total, et c'est là où il va réussir à imposer sa patte, qui est en effet un peu entre Fincher, mais en même temps qui est et les frères Coen, mais qui va être un truc complètement à part et qui va le mettre sur le paysage américain. Et là, les carrés vont dire OK, c'est hollywoodien en fait.
Ouais, d'ailleurs, en parlant du travail de Roger Deakins, j'ai en mémoire comme ça une scène qui me revient où à un moment, je crois, c'est Hugh Jackman qui va acheter de l'alcool dans une boutique et lui, il attend dans sa voiture comme ça, sous la pluie. Et je me souviens que dans mes souvenirs, les couleurs de la boutique. Plus la voiture sous la pluie, etc. J'étais là genre waouh, c'est vraiment trop beau ce que je
vois. Ouais, c'est vrai parce que tu vois Fincher dans Seven, c'est un peu vert. Et là, c'est plus rouille. Tu sais, il y a un côté un peu marron,
et un peu bleu,
orange bleu, bizarre. Ouais. Et ça, et franchement, Deakins, il est très 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 fort. Et je pense que c'est aussi ça qui va faire que la vision que Hollywood et les Américains vont avoir, c'est qu'en fait, c'est comme d'hab en fait, comme t'as dit, Prisoners 2013. Succès total, critique et public, que des têtes d'affiche dans les acteurs. Ça y est, en fait, derrière, si tu rates pas ta marche et que tu es prêt à jouer le jeu d'Hollywood, ce que Denis Villeneuve a voulu, après, derrière...
Et surtout que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Denis Villeneuve, c'est un des rares réals où déjà, quand il y a un film, c'est un petit événement. Ouais. Et aussi, il y a une patte Villeneuve, tu vois.
Ouais.
Tout comme il y a une patte Nolan... Et c'est rare aujourd'hui de trouver des réals où il y a vraiment une patte qui s'en dégage. Quoi.
En fait, ce qui est intéressant, et j'ai lu beaucoup d'analyses là-dessus, et c'est à mon avis pour ça que Nolan et Villeneuve, ils sont très hollywoodiens finalement, c'est qu'en effet, ils ont une patte très personnelle, mais en même temps, ils ont un style de réalisation qui est très académique, donc qui n'est pas trop forcé. Genre, par exemple, à la Tarantino, ou même maintenant à la Fincher, qui fait que si tu ne rentres pas dans le délire, ou si tu ne veux pas avoir du cinéma d'auteur, tu vas lâcher l'affaire.
Après, très peu sont entrés dans le délire Tenet. Hein.
Non, bien sûr, parce que là, il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais avant, il avait réussi, à mon avis, à avoir...
Bien sûr.
En tout cas, dans la réalisation et la mise en scène, il a un truc que tout le monde peut comprendre, qui n'est pas archi compliqué. Et Villeneuve, il rentre aussi un peu dans ce délire-là, où c'est très académique, très beau, c'est des plans très léchés, mais en même temps, ça peut plaire à un très, très large public. Quoi. Et ça, Hollywood, ils adorent.
Très bien. Merci Aurélien. Alors, si les décors sont aussi sombres et un peu dark dans le film, c'est parce que le tournage a eu lieu en Pennsylvanie, non loin de Philadelphie. À la base, l'histoire se déroulait à Boston, mais a été déplacée en Pennsylvanie pour l'ambiance. Et très souvent, quand les réalisateurs cherchent des lieux austères, ils se tournent vers cet état. Donc on va jouer un petit jeu, Paul, Sarah et Aurélien. Vous allez devoir deviner de quels films ont été tournés non loin de Philadelphie, en Pennsylvanie. Très souvent, l'ambiance est un peu glauque, mais pas tout le temps, vous le verrez. T'es bon en quiz, Paul ?
Pas du tout.
Très bien. Non mais si, mais attends, c'est des films en vrai un peu faciles.
Je vais essayer.
Bon, très bien. Bon, le premier, je vais aller de plus facile à un peu plus compliqué.
Okay. Faut dire Pennsylvanie ou pas Pennsylvanie ?
Non, faut donner le film. Titre. Film qui a été tourné dans l'ambiance un peu glauque de Pennsylvanie, non loin de Philadelphie.
Okay, d'accord.
Chacun son tour ou c'est un...
Non, premier qui
est trop.
Alors, film sorti en 1976, Oscar du meilleur film, réalisé par John J. Avildsen. Avec Burt Young, Carl Weathers.
Rambo. Non, Rocky.
Oh là là,
Rocky.
Ça commence très mal. Rambo. C'est effectivement Rocky.
Ouais,
Rocky.
Je suis planté, un des deux.
Et s'il y a bien un film qui caractérise la ville de Philadelphie,
je suis con, Philadelphie à fond.
C'est Rocky avec la statue de Rocky Balboa en dessous les marches de. C'est quoi, c'est un musée en fait, je crois. Hein. il me semble.
Il me semble.
Oui, je crois.
Alors, très bien. Deuxième film, sorti en 1995, avec Brad Pitt.
Mmh. Ah bah, c'est Seven.
Seven, c'est pas tourné à Philadelphie.
Ah bah tiens,
c'est avec Brad Pitt.
C'est un autre film de 95 avec Brad Pitt. Non, c'est, en plus, c'est pas. C'est 95, Seven ? Si, je crois que c'est ça.
Je crois, si. Hein.
Je sais plus, ouais. Eh bien, 95, autre film avec Brad Pitt. On a également dans ce film la présence de Bruce Willis.
Ah, Bruce Willis. C'est Pulp Fiction.
C'est non.
Il n'y a pas Brad
Pitt. 94. Donc on a Brad Pitt et Bruce Willis dans le même film.
Pourquoi je trouve pas ?
Bah écoute, tu trouves pas, ça te rend ouf. Hein.
Ouais, c'est
un film de science-fiction, figurez-vous.
Un film de science-fiction.
En partie tourné.
Ah, putain, je l'ai. Attends.
Oh, elle l'a.
Attends, je l'ai.
Ça rend fou. Hein.
Oui. L'Armée des Douze Singes.
Ah, joli. Bravo, Sarah. Bravo, Sarah, elle égalise. Bravo. T'as-tu vu l'Armée des Douze Singes?
Non,
c'est
super.
Je disais, j'allais dire les légendes d'automne. Ça ne paraissait pas du tout.
Et d'ailleurs, Brad Pitt, il a vraiment. Je pense que c'est son rôle le plus atypique, l'Armée des Douze Singes. Il joue un fou dans un hôpital psychiatrique.
Mais au début, il avait beaucoup de rôles un peu bizarres.
Ouais, c'est vrai.
On était un peu dans ce truc-là. C'est après qu'il est devenu...
Très bien, ça fait un partout. Bravo, Sarah. Autre film, maintenant. Alors, celui-là, je l'adore. D'ailleurs, c'est marrant parce que ce film, je voulais le revoir tellement je le trouve fou. En partie tourné en Pennsylvanie, sorti en 2005 avec Maria Bello, qui joue dans Prisoners.
Ah,
Maria
ouais.
Bello, qui joue la femme de Hugh Jackman. Avec Ed Harris. L'acteur Ed Harris. Mmh. Et dans le rôle principal, Viggo Mortensen. Musique.
Ah, Les Promesses de l'Ombre, non?
Non, mais presque.
Ah, History of Violence.
History of Violence. Tu connais ce film, Paul?
Ouais, je connais.
Sublime.
Il me manque plein de classiques. Hein. Il y a plein de classiques que je n'ai pas vus et il faut que je me mette à la page. Mais
Réalisé par Cronenberg, History of Violence, qui a été tourné en partie en Pennsylvanie. Et là, le point commun avec tous les films que je vous cite, c'est qu'ils sont assez glauques. Donc vraiment, quand on tourne en Pennsylvanie, c'est glauque. Bravo, Aurélien. On enchaîne avec un autre film. Plus récent, sorti en 2019, mm-hmm. Et j'ignorais qu'il avait été tourné en Pennsylvanie. Il a fait beaucoup, beaucoup parler parce que c'est un film qui est sorti sur plateforme et ça a créé une sorte de petite polémique à l'époque. Les acteurs, on a le grand retour de Joe Pesci dans ce film.
Ah, c'est The Irishman.
Oh, il est là, oh, il marque son point, okay, il est là, okay. The Irishman, qui a été en partie tourné en Pennsylvanie. Je l'ignorais.
Ah ouais, non, je ne savais pas.
Mais, je sais pas non plus.
Mais l'histoire se déroule en partie en Pennsylvanie. Donc, The Irishman de Martin Scorsese. Bravo, Paul. Le prochain film, il est réalisé par Curtis Hanson. Il est sorti en 2005. C'est pas du tout un film glauque pour le coup. C'est le seul film pas glauque de ma liste. Mm-hmm. C'est un film avec Toni Collette et Cameron Diaz. C'est une comédie
romantique.
Oh,
ça me dit un truc.
Elles échangent leurs trucs.
Sarah,
mais je vois l'affiche.
Ouais. À Philadelphie, dyslexique et persuadé de ne posséder aucune attitude intellectuelle, l'inconséquent. C'est un film qui s'appelle Inner Shoes.
Oui, voilà. Ah. Elles échangent, chacun prend la place de l'autre.
Eh bien, je l'ai jamais vu, figure-toi.
Ouais, non,
mais comment ça, elles échangent?
Elles prennent la vie de chacune l'une de l'autre. Il me semble que c'est ça.
Mais genre en mode.
En mode, on a échangé nos mamans sur M6.
Exact.
la ref horrible. La ref ignoble.
Non, mais attends, elles échangent de vie, j'aurais comme.
Il me semble, alors je l'ai jamais vu non plus, je vois très bien l'affiche et il me semble qu'effectivement, c'est un peu, on a échangé nos vies, quoi.
Okay.
Il me semble que c'est ça.
Mais genre, c'est un truc un peu magique ou juste. Non, je te pose trop de questions.
Ouais.
tu l'as pas vu, je te pose trop de questions.
Curtis Hanson.
Très bien, bah oui, Curtis Hanson. Film réalisé en 1993, un autre maintenant avec. Oh, ça va être très simple. Denzel Washington, Antonio Banderas,
non, j'ai pas.
Tom Hanks. La réponse est dans la question et dans le titre du film.
Quoi ?
Tom Hanks, Denzel Washington, Antonio Banderas, Jonathan Demme à la réalisation. Une grande musique de film. A été créé grâce à ce film.
Philadelphia.
La réponse est dans le titre, Philadelphia.
Bien
bravo.
Bien
je suis lent aujourd'hui, c'est incroyable.
Tu mets un peu mis lent. Et enfin, le dernier, je vous annonce celui qui remporte le point et le grand gagnant.
C'est le
qui tout double. Film sorti en 1999, c'est un thriller, figurez-vous.
Mm-hmm.
Vous avez tous vu ce film et vous adorez ce film. Je suis sûr que vous l'adorez, ce film. Sorti en 1999, donc, avec Toni Collette.
Encore elle.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire parce que sinon c'est trop grillé.
Ah, sixième sens.
Oh, sixième sens. Ah là là, bravo Aurélien. Bravo. Et oui, et la.
Toni Collette dans le sixième sens, je me souviens plus.
Si, c'est la mère.
Ouais.
Ah ouais, je me souviens
c'est,
plus.
C'est
Il m'avait littéralement terrorisé ce film quand je l'avais vu petit.
Moi, je me souviens que je l'avais vu au ciné avec
ans,
un date à l'époque, donc 99. J'étais vraiment genre au collège ou lycée, je sais plus. Et je me souviens qu'il y a plus de la gueule.
la meuf,
c'est relou, c'est le souvenir que j'ai du sixième sens. Parce qu'en fait, elle fumait beaucoup Genre, elle était très mignonne et tout, mais elle fumait beaucoup et c'était une horreur quand même parler dans le film. Et donc, je sais pas, j'ai été marqué par ça, quoi.
C'est fou.
Moi, c'est gardé le film.
Et ça m'a déconcentré et ça m'a gâché ma séance.
Moi, c'est le premier film où j'ai appris ce que ça veut dire spoiler. Ah ouais, mon frère, le dimanche d'avant, bouffait avec mes parents, il m'a dit: ouais, non, mais tu verras, Bruce Willis, il est mort.
Wow.
Et je fais: quoi? Et je pensais que c'était une vanne, vraiment. Et quand j'ai vu le film, il m'a spoilé pour vrai le film, c'est incroyable.
Mais très souvent, quand on pense à spoiler, on pense au sixième sens, toujours.
Ah, oui, bah, ah ouais.
C'est quoi les autres films auxquels on pense quand on pense à spoiler? Vraiment, le film, il ne faut pas spoiler, quoi.
Seven.
Bah ouais,
ouais, c'est Seven aussi. Ouais.
Je le suspecte.
Ouais,
oui,
mais
d'autres. Oui.
Bah, figurez-vous que Usual Suspect, on m'a spoilé la fin, et pour cette raison, je n'ai jamais vu Usual Suspect.
Ah, ok.
Parce qu'il y a un délire où je sais que tout le plaisir est de se demander qui est le gars.
Bien sûr, bien sûr.
Et quand tu sais, bah, t'es là, genre, j'ai aucune envie de voir le film, quoi. Ça vous est déjà arrivé ce truc, de connaître la fin et de se dire: ok, maintenant que je connais le film, j'ai aucune envie de voir le film?
Ouais, c'est-à-dire que le film est un peu nul, quand même.
Non, mais Usual Suspect, j'imagine que c'est un très bon film.
Ouais, mais ouais. Si tu connais la fin, c'est pas grave, parce que le film, il est bien, tu vois.
Mais je peux prendre du plaisir quand même.
Bah ouais, parce que la réelle, elle est cool. Il y a des scènes un peu cul.
Ouais, mais tu vois, la scène, je la connais, la tasse
la
qui
fin.
Tombe et tout.
Ouais, ouais, bien sûr.
Mais et je l'ai pas dit, je vais pas spoiler.
Non, Kaiser Soze.
Mais oui, bah tu viens de spoiler là, du coup.
Bah non, pour le coup.
Bah si.
Bah non, Kaiser Soze, c'est le nom du méchant.
Oui, mais ça, on le sait, non?
Ouais. Bah, l'important, voilà. c'est de savoir qui est Kaiser Soze.
Mais d'ailleurs, est-ce qu'on peut revoir le sixième sens en prenant toujours autant de plaisir?
Ouais, moi, je l'ai revu plusieurs fois. Et
ben, oui. Figure-toi que je l'ai revu pour la première fois. Depuis cette fois où elle pue la gueule. je l'ai revu il y a un an et demi. Et quand même.
20 ans après.
Il était traumatisé.
Non, mais j'ai trouvé ça très cool, mais j'ai été un peu déçu dans la mesure où pendant tout le film, tu te dis: mais genre, elle le voit pas. Ou,
ouais,
tu vois,
ouais. Mais ça fait ça avec beaucoup de films de Shyamalan.
Ouais, mais
parce
tu vois.
Parce que le village, c'est un peu ça aussi.
Alors, pour les derniers qui n'ont pas encore vu le sixième sens, je prends les deux spoils, mais.
Il a dit un spoil.
J'ai balancé le spoil de mon frère de 1999.
Oui, c'est vrai. Non mais tu vois, il y a tout ce truc où donc en gros, on pense qu'il est encore vivant avec sa meuf.
Non mais là déjà.
Non mais c'est bon, c'est mort. De toute façon, c'est fini.
Mais
voilà, c'est
mort.
C'est terminé.
Bruce Willis, il est mort.
Il y a un vrai débat là-dessus. Hein, les gens qui veulent pas se faire spoiler, même 20-25 ans après,
non,
tu leur dis: vous abusez, les gars.
Non mais c'est un débat parce que en même temps, je suis de ton avis et en même temps, je peux comprendre.
Il y a des gens qui découvrent des classiques, comme moi, je vais peut-être découvrir des gros classiques avec ceux que vous avez cités tout à l'heure. Mais 20 ans après, tu vois.
Mais tu vois, et même, parfois, ça se trouve, il y a des films de, mettons, 1952 que j'ai envie de voir. Et là, si on me le spoil, je suis en mode: bah, certes, c'est 70 ans après, mais je l'avais jamais vu ce film.
Tu vois. Imagine, après, on spoil pas comment il est mort, Louis XIV, à ce moment-là.
Oui, non, mais là, c'est vraiment genre.
Me dis pas avant que j'ai lu le bouquin.
Après, tu vois, je pense que c'est vraiment tellement ce film, ça a été tellement une vanne de le spoiler que limite,
ouais,
les gens, ils le savent, quoi.
Ça me fait penser quand il y a Narcos qui était sorti, il y a des gens qui spoilaient, mais c'est genre tellement bête. Le mec est mort dans la vie.
Pablo est mort, oui, bah.
Ah, t'as spoilé, bah oui, bah désolé, hein, c'est là.
Sorry.
C'est l'histoire, en fait.
Mais en vrai, sauf que tu peux spoiler la fin de Titanic alors qu'on connaît la fin du Titanic, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
Et même, je suis un génie.
Très, très fort.
En fait, j'ai des petites remarques comme ça, furtives. Non, mais en gros, oui, pendant tout le film, on est censé penser qu'il est encore vivant à côté de sa meuf parce qu'il y a une scène au restaurant où, genre, il parle à sa meuf et tout. Et t'es quand même parfois là, genre, bon, allez, genre, sa meuf. Enfin, bon, bref, vous m'avez compris.
Bah, elle répond jamais, en fait.
Bah oui, c'est ça, tu vois. Donc parfois, tu te dis, c'est un peu. T'avais grillé, toi, à l'époque ou,
Non, pas du tout.
Non?
Enfin, si, vu que mon frère m'en avait parlé.
Ah oui, d'accord.
Mais sinon,
mais toi,
non,
par exemple, Paul, quand t'avais
dans
vu
la réelle, j'avais
sens...
pas capté le truc.
Non, j'avais pas capté, j'étais petit en plus.
Ok. Est-ce que vous êtes du genre à vous laisser prendre par la fin ou parfois vous êtes du genre à deviner en amont?
Bah, tu fais pas forcément exprès, ça.
C'est grand truc, ça.
Tu vois, ouais. Tu devines, tu peux deviner.
Non, parce que parfois, il y a des gens qui font leur intéressant qui sont là, genre, oh, au bout de deux minutes, je savais, moi, perso.
Ouais, moi, ça m'étonne un peu parce que souvent, scénaristiquement parlant, ils font les efforts pour que tu tombes. Hein.
Ouais, tu crois?
Ouais, je pense.
Même dans Maison de Retraite 2. je pose la question.
Oui, il y a un petit spoil à la fin. Oui. Je peux le lâcher si vous voulez.
Bien sûr. Alors là, on est en train de rigoler, mais Sarah.
Oui. La chronique bien glauque. Oui.
C'est glauque, mais en général, quand des enfants disparaissent dans un thriller, ça donne souvent un bon thriller. C'est triste, mais c'est vrai. L'histoire du cinéma le prouve. Très badante comme première chronique, mais j'ai hâte de l'entendre.
Let's go.
Bien, écoutez, j'ai 5 films à vous proposer aujourd'hui.
Pas mal.
À noter dans votre liste des films, à voir si vous êtes fan du genre.
Attends, si vous êtes fan des kidnappings d'enfants.
Exactement.
Dans des films. D'accord, okay.
Si vous voulez vous lancer dans ce domaine, n'hésitez pas à noter ces films.
C'est trop tips.
On commence avec le premier film, c'est un film culte qui est sorti en 95. C'est La Cité des Enfants Perdus, qui raconte l'histoire de Crank, qui est un savant fou qui vit sur une plateforme en pleine mer et qui a une particularité, celle d'être privé de la capacité de rêver, ce qui provoque son vieillissement prématuré. Alors du coup, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va kidnapper des enfants de la ville pour leur voler leurs rêves, mais c'est sans compter l'arrivée de deux personnages qui vont tout simplement délivrer les enfants séquestrés. Donc on est sur un conte très sombre avec une esthétique très particulière, et c'est un film qui a d'ailleurs reçu le César du meilleur décor.
Mais j'ai jamais vu, figure-toi. C'est Jean-Pierre Jeunet, c'est ça, hein?
Ouais.
C'est Jeunet et Caro.
C'est ça, parce qu'en fait, tu parles d'esthétique, justement. Jeunet, c'est vraiment un gars qui a une esthétique. Et je me souviens
c'est
que
la
quand
rouille.
Ouais, c'est ça. Et je me souviens que quand j'avais vu Alien, c'est le 4, hein, ouais, Alien 4 au cinéma, c'est Résurrection, ça. Je me souviens que je m'étais dit, waouh, c'est vraiment fou ce qu'il a réussi à faire, parce qu'on sent vraiment la patte Jeunet à l'intérieur même d'Alien. D'ailleurs, Alien, c'est une franchise que je trouve hyper intéressante, parce que le 1 a la patte Scott, le 2 a la patte Cameron, le 3 a la patte Fincher et le 4 a la patte... C'est vraiment une franchise où on a 4 réalisateurs très forts qui imposent leur vision. Même si Fincher, ça s'est un peu mal passé.
Ça s'est mal passé ?
Bah, ça s'est mal passé parce qu'en fait, il y a eu plein de problèmes sur le tournage. C'est un film qui renie, même encore aujourd'hui.
Okay.
Il n'a pas eu le directeur Scott, donc il y a plein de trucs qui ne lui plaisaient pas, je crois.
Okay. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est un sujet intéressant, il faudrait peut-être que je le fasse en vidéo, ça. Les réalisateurs qui renient les films qu'ils ont réalisés, parce qu'il me semble que le réalisateur de American History X renie son film également.
Ouais.
Il y en a pas mal comme ça.
Ouais, c'était son seul film d'ailleurs. McTiernan aussi, il y en a pas mal qu'il a renié, je crois.
Ouais.
Bah, Rollerball.
Oui, c'est vrai.
Déteste ce film.
Très bien, Sarah.
Ok, on enchaîne avec notre deuxième film. Cette fois, c'est un film inspiré d'une histoire vraie. C'est L'Échange signé Clint Eastwood qui met en scène Angelina Jolie. Donc, c'est un scénario inspiré, donc, comme je vous l'ai dit, de faits réels qui ont eu lieu dans les années 20 aux États-Unis. On suit l'histoire de Christine Collins, une mère qui, en rentrant un soir du travail, découvre avec effroi la disparition de son enfant. Commence alors des mois et des mois d'enquête, jusqu'au jour où la police prétend avoir retrouvé son enfant, sauf que Christine, elle, est persuadée que c'est pas son fils, que c'est un autre enfant. Alors, où est passé son enfant ? Qui est cet enfant qu'on lui a donné ? C'est la question qu'on se pose pendant 2 heures de film intense. Ça traite de police corrompue, de violence, de sexisme, de pas mal de choses. C'est un film très cool qui a eu aussi pas mal de nominations et de récompenses.
Je me souviens, j'avais adoré. Vous l'avez vu,
celui-là ? Ça a été cool.
Non, je l'ai pas vu. Je vais regarder. Ça m'intéresse fortement.
Je l'avais adoré à l'époque, et je crois que c'est une habitude chez Clint Eastwood. C'est lui qui fait la musique de son propre film. Et j'avais trouvé ça super. Tu l'as vu, toi, Aurélien ?
Je me rappelle l'avoir vu il y a longtemps.
C'était très bien, celui-là.
Ouais, je me rappelle d'un truc très bien.
En plus, c'est le genre de film, tu le vois, je crois qu'il a dû sortir en 2009, 2008, un truc comme ça. Et c'est le genre de film pratiquement tout oublié, donc tu le redécouvres. Hein, tu le vois. Ça c'est
cool. Ouais, j'ai envie de le revoir.
Tu l'avais vu, toi, Sarah ?
Ouais, moi, j'avais vu et j'avais beaucoup apprécié.
Cool.
Et excusez-moi, j'interviens.
Bien sûr.
Mais tu sais que t'es l'invité de l'émission.
Je suis l'invité.
Fais bien ce que tu veux. Tu peux y aller.
Non, je rigole. Il vieillit, ce film, ou pas, quand tu le regardes ?
Franchement, moi, je trouve pas tellement. Je l'ai revu il y a un certain temps, tu me diras. Donc, peut-être il y a 10 ans. Donc, peut-être que ça a changé entre-temps.
Mais je sais pas s'il vieillit vraiment les films de Clint Eastwood, parce que j'avais revu Mystic River il y a quelques temps. Et j'avais trouvé ça très cool.
Il est incroyable.
D'ailleurs, Mystic River, justement, tout à l'heure, je parlais de Zodiac en grand thriller que j'avais pu voir avant Prisoners. On est vraiment sur Mystic River et Zodiac, quoi, avant Prisoners. Ouais. Ou peut-être que j'ai dû en louper après. S'il y avait le film de Bong Joon-ho, putain, j'ai un trou de mémoire. Aurélien et
Memories of Murder.
Memories of Murder, qui était incroyable. Très cool. Mais ça, je sais pas quelle année c'est, celui-là. Je
crois que c'est 2001 ou 2002.
Ouais, c'est un peu plus tôt, je crois.
Mais j'interviens encore une fois, excusez-moi.
plaisir.
Non, mais pour rebondir là-dessus, Prisoners, tu vois, en l'ayant revu là, il y a quelques jours, il vieillit vraiment, vraiment, vraiment pas. Le seul truc qui te fait penser au fait que c'était notre époque, c'est le téléphone qui tient. Mais sinon, tu regardes tout est, ça pourrait être aujourd'hui sans problème, tu vois. Et j'aime bien ce truc-là dans les films que je regarde qui datent d'il y a 15, 20 ans.
C'est vrai. Ouais.
C'est quoi le dernier film que tu as vu ? Ah non, attends, je te pose la question à la fin.
À la fin, à la fin.
Ouais, je pose la question. Très bien, Sarah.
Ok, notre troisième film, c'est pour tous les fans de Midsommar, puisque on va parler de Wicker Man, un film donc qui a inspiré Ari Aster dans le fond et dans la forme. Alors, on suit cette fois-ci, donc je ne vous ai pas dit, mais c'est un film d'horreur sorti en 73, et cette fois-ci, on suit le sergent Howie qui est en charge d'enquêter sur la disparition d'une petite fille sur une île écossaise un peu isolée. Sauf qu'au fur et à mesure de son investigation, il va être confronté à une population super hostile qui se livre à des rituels et des cérémonies super étranges, jusqu'à se demander si la petite fille n'a pas tout simplement été victime d'un sacrifice humain. C'est super cool visuellement, et en plus de ça, on retrouve Christopher Lee dans le rôle de gourou un peu de la secte, donc c'est très cool à regarder.
Trop stylé. J'adore ce film.
J'avais kiffé aussi, hein.
Et je crois que c'est un des films préférés de Martin Scorsese, si je dis pas de bêtises. Et effectivement, c'est un film qui a inspiré énormément de réalisateurs. Et tu vois, ça m'étonne même pas que ça ait inspiré Ari Aster pour Midsommar, quoi. J'ai en mémoire, c'est une sorte de grand... comment on appelle ça, grand bonhomme comme ça, les
épouvantails en bois, là.
Épouvantails en bois immense qui prend feu, etc. Genre, il y a une ambiance vraiment, vraiment, enfin, trop bizarre dans le film.
Comment il s'appelle? Je vais le noter.
The Wicker Man.
The Wicker Man.
Ouais. C'est un film d'horreur en plein jour. C'est en vrai, même dans les images, etc. Tu vois dans les champs, les costumes, etc. Tu retrouves exactement la même chose dans Midsommar.
C'est trop bien.
Si je conseille un petit truc à rien à voir, mais c'est un manga. Qui est, ça m'a fait penser à ça, ce que tu me rappelles, ça s'appelle Gannibal, je sais pas si vous connaissez.
Pas du tout.
Et c'est un peu dans la même veine, bon, c'est sorti il y a pas si longtemps, ils en ont fait une adaptation sur Disney+, c'est japonais, c'est un manga japonais, où t'as un keuf qui est muté dans un petit village dans les montagnes japonaises, et il est obligé de s'acclimater à son environnement et à la population, et en fait il découvre au fur et à mesure que la population est un peu bizarre, et qu'ils ont des comportements un peu chelous, un mix un peu de Truman Show, où ils font tous un peu la même chose, et il comprend pas pourquoi, et en fait il comprend très vite... que c'est une population cannibale en fait.
Ok.
Et il y a toute une enquête comme ça qui dans ce village perdu au milieu de la montagne et de la forêt où il essaie de prouver, il n'y arrive pas.
Il y a une raison pour laquelle il a été affecté là-bas.
En fait il était violent. Il était à Tokyo je crois. Et il a été violent. Il a tué un homme sans spoiler. Il a tué quelqu'un pour protéger sa petite fille justement. Il y a tout ce côté avec la petite fille et l'enfant. Il a un peu le comportement de Hugh Jackman dans Prisoner, tu vois.
Ok.
Flic qui essaie de se calmer, mais en fait, il y a un moment donné où ça explose. Mmh. Et donc, il a été muté par violence dans son ancienne unité, en gros. Et voilà, il arrive ici pour s'apaiser. Et au final, il tombe sur ses fous, quoi.
Écoute, tu me l'as bien vendu. Sur Disney+.
Ouais, et l'adaptation est assez particulière. Tu sais, c'est très rare de trouver une adaptation d'un manga qui a réussi, en fait.
Ouais.
Il y en a eu très peu. Death Note, c'était pas fou.
J'ai une culture zéro en manga.
C'est vrai, il y a vraiment des scénarios incroyables. Mais en manga, c'est exceptionnel. Voilà, ça me faisait penser à ça et je vais regarder le film direct.
C'est une belle intervention, Paul.
Merci. Bravo. Si vous cherchez une troisième personne,
si tu veux intervenir, voilà. N'hésite pas. Hein.
Bah, si j'interviens, je vous le dirai.
Hein. Ouais. Tu lèves la main et puis.
Ça marche. Je le dirai que je lève la main.
Travaille à l'école ceux qui se tenaient le coude.
Ah ouais,
tu sais, les premiers de la classe, ils se tenaient le coude en levant la main.
Tête baissée, ils en pouvaient plus. C'était vraiment un truc de.
Je les détestais, eux. Oui, ça.
Trop bien.
Quatrième film maintenant, c'est Gone Baby Gone. Je pense que vous l'avez
vu. Ah, j'adore ce film.
Bah oui.
Pour expliquer à ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est un classique du genre, bien sûr. Et c'est surtout le tout premier film de Ben Affleck, tout le premier long métrage de Ben Affleck, dans lequel il fait jouer son propre petit frère, Casey Affleck, qui incarne un détective privé chargé de retrouver, avec sa collègue et femme, la petite Amanda, une enfant disparue dans la banlieue de Boston. Une enquête sombre qui conduira le couple à côtoyer les bas-fonds de la société, à côtoyer criminels, pédophiles. Le casting est absolument incroyable. Ed Harris, Morgan Freeman et Amy Ryan, qui a d'ailleurs reçu un prix pour sa performance, un Oscar pour son rôle dans ce film.
Incroyable.
Gone Baby Gone, je l'avais vu à l'époque où c'était sorti en DVD. Je ne l'ai pas revu depuis. Mais typiquement, toi, tu posais la question tout à l'heure, est-ce que ça a bien vieilli? Je me demande si ça a bien vieilli ce film.
Je l'ai vu revu récemment et moi, ça me fait le même effet que Prisoners.
Ah ouais, vraiment?
Ça n'a pas vieilli, tu vois, ça bouge pas.
Il est vraiment cool ce film. Mais d'ailleurs, tu vois, en fait.
Boston, dans le genre, c'est bien. Comme Philadelphie, c'est bien sale.
C'est vrai. Mais tu sais que ça devait être à Boston, normalement. Je l'ai dit tout à l'heure.
Prisoners.
Je me répète. Non, ce que je veux dire, c'est que là, en fait, je repense à. J'ai des trous de mémoire ce soir. Le film de Fincher avec Ben Affleck qui est sorti dans les années 2010.
Gone Girl
aussi, c'était un très bon thriller.
C'est trop classique, Gone Girl.
Très très bon.
Ouais, j'aime bien.
Et il en reste un, il me semble.
Il en reste un, et en plus, c'est mon préféré.
Ah.
Alors, c'est un film qui s'appelle Room avec Brie Larson, qui est réalisé par Lenny Abramson.
Ce qui paraît, c'est très dark.
Tu l'as pas vu?
Non, je l'ai pas vu, mais tout le monde en ressort bouleversé.
C'est génial, je l'ai vu 4 fois. On y découvre Joy, une jeune fille kidnappée 7 ans auparavant et séquestrée depuis par son agresseur, avec qui elle a été contrainte d'avoir Jack, un enfant de 5 ans.
C'est marrant de voir ça 4 fois.
C'est très bizarre.
C'est non, tu revois Retour vers le futur 4 fois.
Non, mais il est super bien réalisé.
Je l'ai vu 32 fois.
Brie Larson est absolument incroyable. Et donc tous les deux, ils vont tenter d'enfin sortir de la chambre qui leur sert de cellule. Une vie en captivité, donc ils vont essayer de fuir. Mais la question, c'est à quel prix et surtout, sont-ils prêts à quitter leur réalité? Donc comme je vous le dis, c'est un film que j'adore, que j'ai revu pas mal de fois. Et j'ai découvert récemment le truc bien glauque pour terminer, que c'est inspiré d'une histoire vraie.
Bah oui.
Celle d'Elisabeth Fitzel qui a été emprisonnée pendant 24 ans.
Ah mais attends, tu le savais pas quand t'avais vu le film?
Je ne le savais pas.
Ah mais ça doit rendre l'expérience encore plus glauque.
C'est complètement. J'ai envie de le voir pour une cinquième fois. Mais ouais, l'histoire d'Elisabeth Fitzel qui a été emprisonnée pendant 24 ans par son propre père, avec qui elle a eu, écoutez bien, 7 enfants.
Oh là là.
Quel enfer, mon Dieu.
Et c'est sur cette information que j'ai fini ma chronique.
Bravo, Sarah.
C'était une très belle liste.
Est-ce qu'il y a un film qui vous a donné plus envie dans sa liste?
Le The Wicker Man.
Ouais.
Ouais, je vais regarder ça.
Non, mais ça, c'est vraiment cool. Aurélien, tu les as tous vus ?
J'ai tout vu. Bah là, j'ai envie de revoir God Baby Girls. Je crois que ça fait super longtemps. The Wicker Man, je l'ai revu il y a pas très longtemps. Et L'Échange. L'Échange, je crois que j'ai pas vu depuis très longtemps.
Et bah écoute, le seul que. Enfin, non, j'ai pas vu La Cité des Enfants Perdus, mais Room, je l'ai pas vu non plus. Je vais le voir. Ça te fait plaisir, Sarah?
Oui.
je te donnerai mon avis sur,
Room, il est super.
Sur le film. Bah non, mais
oui. Génial. Je sais plus comment il s'appelle, le petit. L'enfant qui joue aussi dans le rôle de Jack. Il est excellent, cette
fois. Mais en fait, moi, à l'époque, ça m'avait déchauffé parce que les gens allaient voir au cinéma et ils me disaient, oh, j'étais dans un sale mood pendant 3 jours. J'étais là, genre, bah, pourquoi m'affliger un sale mood pendant 3 jours? J'ai pas envie, du coup.
Bah, depuis les confinements et tout, c'est bon.
Ouais, voilà. Non, mais il faut trop. Parfois, il y a des films comme ça. Faut être dans le bon mood pour
c'est
le
vrai, c'est vrai. Vrai. C'est vrai.
Parfois, tu es de bonne humeur, comme ça, tu vas pas dire je vais m'attraquer à regarder ça.
C'est enfin, vrai. Bref.
Alors, Paul, je te sais fervent spectateur de Tabs.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, toi et les infos croustillantes, ça ne fait qu'un, n'est-ce pas?
Bien sûr, bien sûr.
Tu en raffoles.
J'en raffole.
Eh bien, écoute, j'en ai plein sur Prisoners.
J'adore.
Ça tombe bien. Alors, on parlait plutôt dans cette émission de la prestation de Jack Gyllenhaal, en grand acteur qu'il est. Il s'est approprié son personnage puisque les tatous, sa bague franc-maçonne ainsi que ses tics de visage sont autant d'idées venant de lui. Et c'est assez marrant parce que parmi les tatous qu'il a choisis sur son bras, il y a des signes du Zodiac, lui qui a joué dans Zodiac. Est-ce que c'est un clin d'œil? Peut-être.
C'est tellement la classe comme clin d'œil. Genre, tu vois, moi, je fais ça à la limite. J'ai Joséphine Ange Gardien quand j'ai débuté en 2021. Tu vois.
Donc, t'as joué dans Joséphine Ange Gardien?
Ouais, au tout début, il y a 3 ans.
Petit aparté, raconte-nous ça.
Très cool. Mais en fait, quand t'es comédien et que tu débutes, j'ai pas fait d'école. J'ai le schéma classique, trouver un agent après avoir réussi à faire des images. Puis après, bah, tu dois juste aller rencontrer des directeurs, directrices de casting. Et tu fais pas la fine bouche au début. T'as envie de tourner, t'as envie de découvrir ce que c'est un plateau professionnel et ça en fait partie. J'ai eu de la chance de commencer sur 2 séries qui étaient vraiment, vraiment top, sur des petits rôles. Et l'année d'après, j'ai enchaîné, il y avait Joséphine Ange Gardien pour jouer le méchant dans l'épisode.
Ah, tu joues le méchant,
je joue le méchant, ouais.
Ah,
le voleur de téléphone. Pas très crédible.
Attends,
mais
tu voles le téléphone de Bimimati?
Non, pas le sien, non.
Ok,
non,
j'aurais bien aimé.
Ça aurait été génial, l'anecdote. non, ouais, j'ai joué là-dedans, j'ai commencé.
Alors attends.
C'était cool, c'était un petit truc. Hein.
Moi, je te connais un peu, je sais qu'avant, tu faisais du football américain.
Ouais.
Pendant un bon niveau, d'ailleurs.
Pendant 10 ans, ouais, j'étais sportif de haut niveau. J'ai fait l'équipe de France, champion de France. Et je devais partir aux États-Unis pour faire une fac.
Okay.
Et voilà, j'étais jeune et au final je suis resté ici. Et juste après, j'ai rencontré l'acting.
Alors justement, quel est le switch qui fait que tu passes de avoir envie d'être football américain à acteur?
Bah en fait, je pense que je suis hyper influencé par la culture américaine depuis tout petit, sur tous les plans sportifs, dans ma culture, dans ce que j'aime, dans ce que je regarde. Et donc ça s'est fait assez naturellement. Je pensais pas que c'était possible de devenir acteur. J'ai un bac plus 5 dans autre chose, tu vois. J'ai écouté mes parents, donc. Donc je savais pas que je pouvais faire ce métier-là. Et puis quand c'est arrivé, je me suis dit pourquoi pas. Et puis c'est le même moment où j'arrête le foot américain parce que j'ai fait des commotions cérébrales. Donc j'ai dû arrêter pour problème de santé. Et puis ça s'est vraiment bien enchaîné, en fait, tu vois.
Alors là, récemment, tu étais dans Stupéfiant Noël de Arthur Sanigo, qu'on a déjà reçu dans ce podcast, avec Eric Judor, qui est sorti sur Prime. Et tu étais aussi dans la série Le Dernier Walking Dead.
C'est ça. Exactement.
Et
ouais.
Tu joues quoi dedans?
Je joue le rôle de...
Voleur de téléphone.
De voleur de téléphone. Non, je suis Michel. Je joue le rôle de Michel, des prénoms très français.
C'est marrant parce qu'à chaque fois que les Américains ils font des films en France, c'est des noms...
Tu vois,
Michel Leduc.
Ils ont des clichés comme si nous, c'était Josh Texman, tu vois, genre des trucs un peu nuls. C'est une courte apparition, hein, mais c'est mon décès qui va lancer tous les enjeux en fait, de la saison. En fait. Voilà.
Ok, et alors c'était cool de jouer avec...
Ouais, c'est fou. Mais je suis...
Norman Reedus, c'est ça?
Norman Reedus, ouais. Okay. C'est dingue, mais je suis un peu partagé entre... Bah, c'est une courte apparition, bah, je suis dans l'épisode 1, je disparais assez rapidement. Et donc, pas un syndrome de l'imposteur, parce que j'ai été casté, il y a eu une lecture, donc t'es vraiment dans les bonnes conditions, on te considère, tu vois. Donc tu te sens à part entière dans le projet, mais... Et un truc de, bah, je suis pas là tout le long de la saison, j'apparais un petit peu. Donc... Mais jouer avec lui, c'était une série que je regardais quand j'étais plus jeune. J'ai suivi toutes les 6 premières saisons, je regardais tous les lundis, j'étais fan, je me dis c'est impossible un jour de pouvoir jouer avec une personne comme ça. Puis un jour ça arrive et tu le check,
ouais,
il dit oh, comment tu vas. Bon, il a pas dit comme ça, hein, il a dit en anglais, mais non, exceptionnel.
D'ailleurs, quitte à vous mettre bien avec mes questions, Sarah, j'ai vu sur ton Insta que tu avais interviewé Keanu Reeves.
Le meilleur moment de mon année 2023.
Bah, pas mal ça.
Ah, incroyable.
Ouais, c'était pour John Wick le dernier.
Exactement.
Et alors il est cool?
Mais écoute, tu sais, la théorie comme quoi c'est le mec le plus sympa du monde. C'est tellement vrai.
Ah ouais,
genre,
incroyable.
Vraiment, son équipe est détestable, mais lui, genre, on aurait dit, en tout cas, moi, je le crois comme ça, je le prends comme ça, j'ai l'impression qu'il pouvait rester des heures et des heures à parler
trop,
avec moi. Et c'est trop sympa.
Mais les
vois.
Équipes sont toujours comme ça. Je me
Bien
souviens quand le TAPS que j'avais fait, où j'avais interviewé Goldblum, en fait, t'interviews, je pense que t'as vécu ça sur, avec Kim Reeves aussi, t'interviews et à côté, t'as une personne de son équipe qui te dit hey, « dépêche-toi, dépêche-toi ». Et
toi, tu mets la pression parce que tu sais, t'es, dans
t'es dans tes questions et tout, puis tu sais, genre, ça te met une pression de ouf.
Putain, c'est ouf ça. Ah ouais, te mettre une
pression. Il y a le décompte en fait, tu vois, les trucs et tout. Et puis moi, vrai fan que je suis, à la fin, les photos n'étaient pas autorisées, mais je ne le savais pas. Du coup, à la fin, je dis, je peux faire une petite photo avec toi. Et je me suis fait engueuler en sortant. Mais je ne regrette pas ce moment.
Mais tu l'as fait la photo?
Je l'ai fait, bien sûr. Okay. Bah, comment tu l'as vu?
Ah, bah oui, c'est vrai. Non, mais j'ai vu la vidéo. Et comment ils t'ont engueulé alors? Tu t'es fait gronder?
Oui, il m'a dit, ça, c'est pas possible, il faut pas faire ça. Bah, d'accord.
Tu t'es fait gronder.
Ils sont durs, je trouve. Ils sont durs.
Ouais, ils sont durs.
Ça prend du temps.
Tu sais, lui, il était là, il m'a dit, avec plaisir et tout, il n'y avait pas de souci, tu vois, c'est vraiment le reste. Après, je pense que si tout le monde fait ça, ça met un peu de temps. Mais j'avais calculé les 5 secondes restantes pour faire ma photo.
Ah, pas mal.
T'avais combien de temps en total? 20 minutes? 25 minutes?
Non, moins.
Non, on a.
Ah ouais, c'est moins que ça.
8 minutes, je crois.
Ah ouais, d'accord. En fait, ça enchaîne, c'est ça.
Non, mais parfois, c'est même 3 minutes. C'est presque junket.
Ah ouais, tu vois, c'est un univers que je connais pas forcément.
3 minutes, c'est un délire. Mais on avait reçu Sébastien Abdelhamid dans ce podcast qui, à l'époque, je ne sais pas si tu t'en souviens, Aurélien, nous disait que Schwarzy, maintenant, il fait payer pour les photos.
Ouais.
C'est-à-dire que si tu veux faire une photo avec lui, c'est payant.
Incroyable.
Il se balade avec un petit TPE comme ça.
Non, mais je...
Allez, hop, mais sans contact. 36 balles. 36 balles comme petit bonne shape.
Est-ce que tu paierais, toi? Est-ce que tu paierais?
Non, je ne paie pas. Je suis pas très... C'est pour ça que avec Norman Reedus, j'ai fait une photo sur le set. J'ai vraiment attendu de finir mon travail, de finir la journée. De comprendre que j'avais bien fait mon travail avant de demander quoi que ce soit, mais je suis pas fan de ça. D'habitude, j'ai un truc où j'ai, mais là c'était trop là c'était j'allais regretter de pas immortaliser le moment, en fait, tu vois, et que ça reste juste un souvenir.
Hey, j'ai une bonne question pour vous. Donnez-moi un artiste comme ça ou une star à qui, lorsque vous étiez plus jeune, vous avez demandé un autographe ou une photo. Paul,
putain, c'est ouf parce que j'ai un truc qui vient en tête tout de suite. Lilian Thuram, à Figari en Corse, d'où je suis origine, à l'aéroport, sur ma boîte de Game Boy Advance.
c'est détaillé,
c'est très technique.
Tu vas me mettre un flash de fou malade. J'avais pas de papier, j'étais petit, j'avais ma boîte. Je dis, je la sacrifie, puis je l'ai encadré, donc j'ai une signature de Lilian Thuram.
C'est trop bien, c'est marrant.
C'est bon, ça.
C'est marrant. Aurélien,
je sais pas trop, moi c'est plus tard, mais c'est pas fou aussi. Quand j'avais genre 18-19 ans, j'avais fait signer, je l'ai encore, tout le groupe The Roots. Voilà, bon.
Ok, c'était pas mal.
Sur un billet, voilà.
Ça.
Ben moi j'ai pas réussi à faire de photos ni d'autographes, mais j'avais croisé Lenny Kravitz à San Francisco, et puis ben, encore une histoire d'équipe, ils m'ont viré.
Regardez, c'est la meuf qui se fait virer par toutes les équipes.
Mais moi c'est pareil que toi, c'est surtout des joueurs de foot, je crois pas vraiment de photos à d'autres personnes.
Tu sais, quand on était petit, c'était
ouais, c'est ça.
Et puis il y avait pas, moi j'étais très jeune, et à l'époque les autographes c'était le truc, quoi. À l'heure actuelle c'est un petit peu
ouais,
tu vois. Mais moi, ton tel pour faire une photo, quoi.
Moi, j'allais au camp des loges, genre j'ai des photos avec Georges Weah, trucs comme ça et tout. Incroyable. Mais c'était vraiment des. Ouais, j'ai pas de souvenirs avec des acteurs, quoi. C'est vraiment que des joueurs de foot, je crois. Mais vraiment, ça. Je pense que quand j'étais petit, j'aurais préféré des photos avec des joueurs de foot qu'avec des acteurs. Genre, j'adorais déjà le cinéma, mais le foot, il y avait vraiment un truc de waouh, c'est genre vraiment le mec que j'admire tous les week-ends. Parce que l'acteur, tu vas l'admirer genre une fois tous les deux mois ou trois mois, mais les joueurs de foot, c'est vraiment toutes les semaines que tu les admires. Enfin, bref. Et est-ce que là, il y a une star, justement, alors toi qui n'es pas très photo? Moi aussi, je suis pas trop photo, mais est-ce qu'il y a vraiment une personnalité comme ça où tu te dis ah, j'aimerais trop avoir une photo avec lui ou avec elle?
Ouais, je pense Tom Hardy.
Tom Hardy,
ouais. Tom Hardy, c'est un acteur que j'aime le plus, dans lequel je m'identifie. C'est...
Ça, tu l'encadres, la photo?
Ouais, je pense que je kifferais. Ouais, je kifferais.
Ok, Sarah.
Jason Momoa.
Ah ouais,
ouais.
Alors tu sais que Jason Momoa qui est un peu dans la sauce en ce moment.
Hein? Pourquoi?
Oui. C'est tes rêves, désolé.
La liste.
Ah ouais, mais.
Quoi? Alors là, je suis choqué, je sais pas.
Bah, je sais pas, j'ai vu une vidéo sur Twitter où en gros, il est avec deux mineurs, genre de 11-12 ans.
Ouais.
Et tu sais qu'ils prennent une photo, puis tu vois, ils touchent un peu la poitrine de la mineure.
Mais non, je change, Christian Bale.
Ouais, voilà.
voilà.
Allez, il a vite changé.
Pas de problème avec Christian.
Il y en a tellement en vrai, il y a toutes les. Attends, je me perds. Il y en a tellement d'acteurs avec qui j'aimerais peut-être partager un selfie, mais.
Bah attends, tout à l'heure, tu disais que t'étais pas très photo, et là, finalement, t'en veux plein.
Non,
c'est quand il a entendu toucher la poitrine et tout, il a dit moi, je veux y aller.
L'enfer. Non, c'était si j'ai le droit avec une personne. Ouais, bon, allez, je me tais là-dessus.
Non,
Robert De Niro, je pense. Robert De Niro.
Ah, ouais, Robert De Niro. Ça épate un peu quand t'as une photo avec Robert De Niro. Et toi, Aurélien?
En acteur.
Non, peu importe.
Ah, Stevie Wonder, moi, je pense.
Stylé.
Stevie Wonder?
Ouais, je pense.
Très stylé.
C'est la dernière grosse resta, tu vois, vraiment de la musique. Qui donc t'as Stevie Wonder. En plus, je suis sûr que tu peux. C'est pas juste une photo, tu peux discuter, tu peux. Voilà.
Moi, j'ai un peu
c'est cool, quoi.
J'ai un peu une photo pas honteuse, mais un peu drôle. C'est en fait qu'un jour j'étais invité dans le carré T'as déjà été dans le carré en plus toi au Parc des Princes,
ouais.
Paul.
Ouais, c'est hyper impressionnant.
Donc, vraiment, ouais, c'est hyper impressionnant. Donc c'est vraiment le carré où il y a Nasser, où il y a tout le monde, etc.
Sarkozy.
Et Sarkozy. Et justement, j'étais assis à côté de Sarkozy. C'est-à-dire que j'étais sur le siège à côté de Sarkozy. Et genre, t'as le président, un président français, t'es obligé de lui demander une photo à un moment donné, quoi, tu vois.
Ah, il a
je l'ai pas partagé sur les réseaux.
Ouais, c'est pas ma tasse de thé, je m'en fous un peu de sa gueule, tu vois, mais il a une aura, hein, quand tu le
vois,
il y a un truc, hein. Il est tout petit, il est là. Désolé, hein, s'il écoute le podcast. il m'a dit qu'il écoutait le podcast. Mais tu vois, c'est vrai qu'il y a un charisme. Hein,
mais je trouve que Sarkozy, il a un petit côté des affranchis, quoi.
Ouais,
tu vois.
Tu
sais, un petit côté de Joe Pesci.
Joe Pesci, ouais.
Ça pourrait être un perso des affranchis ou même des Sopranos, tu vois. Enfin bref. Donc on va revenir aux anecdotes de Prisoners. Si vous le voulez bien.
On s'est garé.
Jack Gyllenhaal d'ailleurs n'a même pas passé d'audition pour ce film. Lui et Denis Villeneuve avaient tellement aimé bosser ensemble sur le film Enemy qu'ils se sont dit tournons ensemble à nouveau, peu importe le projet. Donc vraiment une vraie histoire d'amour entre Villeneuve et Gyllenhaal.
Trop stylé.
Un acteur qui a auditionné par contre, c'est Ryan Gosling. Ça aurait fonctionné selon vous, Ryan Gosling,
pour Prisoners, le rôle de
l'inspecteur.
Ah, de l'inspecteur.
Ah ouais. Ouais,
de Jack Gyllenhaal. Son rôle.
Ouais. Celui de Jack Gyllenhaal.
Franchement, ouais, il y a un petit côté The Place Beyond the Pines.
Exactement.
Un truc comme ça où il peut jouer un truc très dur avec les tatouages et tout. Ouais, ça aurait fonctionné, je pense.
Exactement. Ça aurait été pas mal, mais finalement, il a été refusé. C'est où d'être refusé au casting quand t'es Ryan Gosling.
Grave.
Moi, ce qui me choque, c'est qu'il passe encore des castings à ce niveau-là.
Ouais,
tu vois,
ouais.
C'est un truc qui me. Je me dis, c'est trop stylé que le gars. C'est Jane Rostai.
Après, c'était 2013, bien qu'il avait déjà fait Drive, je crois.
Ouais, il avait fait 2011 Drive, non?
Ouais, c'est ça, crois, ouais.
Et The Place Beyond the Pine, c'est 2014.
Ouais, mais parfois, c'est juste pour. Parfois, tu sais, il y a des auditions vraiment pour.
Ils sont pas beaucoup, je pense. Ils sont
3-4,
c'est juste pour voir
checker si ça trouvait vraiment bien. Tu peux nous raconter un casting vraiment foiré que t'as fait?
Un casting vraiment foiré. Ouais, j'en ai un en tête.
Parce que sur ton Insta, t'as l'habitude de. Un truc que je trouve très drôle, t'as l'habitude de montrer des. Alors, c'est devenu un peu un running gag, mais des photos que t'avais prises pour un casting où
ouais,
t'es vraiment ringard de ouf dessus.
Elle est folle pour. Bah, je vous explique un peu le truc. Je suis jeune comédien. L'envie de faire du cinéma, c'est 2014, où j'ai le déclic. Et puis, de début classique, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne, de faire des photos de comédiens. Et donc, je me tourne vers des photographes. En fait,
attends, mais comment déjà, où est-ce que tu vas choper le photographe
Via une agence, je me fais arnaquer en fait. Je me fais arnaquer, je suis jeune, plein de rêves. Il y a une agence qui me contacte, mais je vais vous dire un truc un peu après, ça va vous faire un peu de peine, mais il y a un truc où. Je vais vous raconter l'anecdote juste après ça. En gros, 2015, donc, il y a cette agence qui me contacte, et j'ai pas assez de. J'ai quel âge? Il y a 9 ans, j'ai 20 ans, j'ai 19 ans, tu vois, donc t'es censé être un petit peu lucide sur ce que tu fais. Mais t'es tellement plein de rêves, t'es tellement ébloui par tout ça, et t'as tellement envie de réussir que tu fonces dans le truc, et tu vois le site internet, il est bancal. La personne qui te parle, elle écrit pas correctement. Tu dis, ah, bon. Tu vois, avec le recul maintenant, si je regardais les conversations, je serais un peu, j'ai abusé. Et en fait, je les rencontre dans un bureau parisien. Et les mecs, ils me font signer un contrat, s'il te plaît, direct. Tu vois, le truc un peu chelou, tu signes un contrat. Et elle me dit, c'était une nana, elle me dit, ouais, bah, maintenant, t'es représenté par nous pendant un an. C'est un site où il y aura des castings, etc. Avec le recul, je sais très bien que c'était totalement donc une arnaque et c'était de la merde. Et donc, elle me dit, il faut que t'aies des photos. On a un partenaire officiel, un photographe qui s'appelle, je sais pas quoi. Tu vas le voir, c'est 150 balles.
Il y a eu zéro respect sur ce photographe.
Il y a eu zéro respect.
Il s'appelle je sais pas quoi.
Mon Dieu, je sais même plus comment il s'appelle ce type. C'était dans une cave lugubre, j'arrive. Il y a juste un fond avec deux éclairages hyper forts. Et il me demande de ramener des trucs, je ramène des trucs. Et puis il me propose une veste de costard un peu petite. Je la mets, je ressemble à un magicien. Je suis là, je suis tout blanc, j'ai pas de barbe. Catastrophique. Et en fait, j'ai retrouvé ce... Je vais vous montrer la photo, j'ai retrouvé ce... Ce shooting des enfers où j'ai totalement l'air d'être un mec qui harcèle des gens dans un lycée américain moyen, vraiment, tu vois. Et je fais ce shooting et il me dit ok, je t'envoie les photos plus tard, il me les envoie. À l'époque, je crois, je trouve ça limite un peu stylé. Tu vois.
Ouais, bah oui, tu m'étonnes, c'est le premier shooting.
Et en fait, non, c'était totalement une arnaque, j'ai jamais eu de nouvelles derrière tout ça. J'ai donné 150 balles, je pense qu'il faisait ça avec beaucoup de jeunes comédiens. Et je suis retombé dessus, genre presque, ouais, pas 10 ans vu que c'était 2015, mais 7 ans après, tu vois. Et sur Insta, je les poste, j'aime bien l'autodérision, tu vois, je me mets à nu devant les gens avec ce shooting horrible et voilà, les gens sont très contents et rigolent beaucoup.
Ouais, parce que ce qui est cool en vrai sur ton compte à ça, c'est que tu charries beaucoup les gens, mais tu te charries aussi toi, quoi.
Bah, c'est important, je trouve.
C'est un peu l'idée, quoi.
C'est important, j'essaie de. S'il y a des trucs honteux chez moi ou des trucs qui me font rire, si ça me fait rire, je le partage, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, tu vois. Toujours avec bienveillance, je m'amuse.
J'en avais parlé dans un podcast, t'en souviens rien, là récemment, où en gros, quand j'avais 20 ans, il y avait eu un casting sauvage où une meuf de la maison Margiela, Martin Margiela, m'avait.
Bah, t'étais là,
mais voilà. Et donc j'avais fait un casting pour l'occasion.
Ok.
Et je te montrerai les photos en DM.
Avec grand plaisir.
J'ai on n'a pas eu le droit. Moi, j'ai pas vu les
photos.
Je vais vous les montrer. Il va vous les montrer.
Quand ce podcast sortira, mais je crois que j'ai peut-être déjà montré, je sais pas. Et en gros, j'avais fait des photos, mais vraiment les photos clichés où. Vas-y, tu prends ton col roulé là, tu le mets un peu sur ton.
La photo d'Mbappé là, tu te rappelles?
Mais et genre là t'es sur un canapé puis tu te mets comme ça et c'est vraiment ringard de
ah
ouf.
Ah non
quoi.
C'est ringard de ouf. Non tu me demandais un casting raté.
Ouais.
Ouais de base. Je te raconte, très honteux.
Bien sûr.
Non casting j'ai plus d'appréhension, c'est trop bien, j'y vais. C'est tellement un plaisir, c'est tellement incroyable de d'être potentiellement sur un projet, j'y vais toujours, j'ai jamais de stress tu vois. Sauf que cette fois, je rencontre la directrice de casting pour la première fois et ça c'est... T'as envie de faire bonne impression tu vois, tu veux bien jouer. Et donc j'arrive un peu stressé et je fais l'erreur de... pas apprendre totalement mon texte, je sais plus pourquoi il y avait un truc qui fait que je l'apprends le matin sur le trajet, tu vois. Ouais. J'arrive, hyper sympa la directrice de casting, elles sont deux dans une salle où il y a juste un bureau, une chaise, et d'habitude tu te mets devant, elle te filme, t'es debout, voilà, t'as pas trop d'action d'habitude. Et là c'est une scène avec 100%, pardon, il faut que je me rapproche un peu du micro, c'est une scène avec beaucoup d'action. Et elle me dit alors, c'est un peu long, on va couper le texte, donc on garde le début, et on va prendre la fin et tout le milieu en fait, où nous on parle, etc., on l'enlève. Sauf que c'est une partie où je monte en colère. C'est un truc où progressivement je le sens monter et d'un coup j'explose. Donc si tu l'enlèves, ça n'a plus aucun sens. Et je me rappelle la scène, c'est un film qui n'est pas sorti encore, qui sortira peut-être cette année, je crois, où il y a quelqu'un à la porte devant moi et j'ai un visage très souriant. Et quand je ferme la porte, je switch totalement d'expression et je deviens un autre gars. Limite, il y avait un délire un peu genre nazi, genre le mec en fait il a des posters un peu chelous et tu comprends que c'est un gars un peu bizarre tu vois. Et donc je me tourne et là je change d'expression et je dois monter en colère d'un coup et j'y arrive pas. Et en fait je sais que ce que je fais c'est nul tu vois, et dans le regard on voit que tout est nul tu vois. Et il y a un truc où on a dit non mais c'est très bien continue et tout, et je sais que c'est pas très bien du tout tu vois. Et c'était vraiment très long. Je peux la refaire si tu veux. Non, on a ce qu'il faut. Cette phrase,
c'est dur ça.
On a ce qu'il faut. Cette phrase, elle est jamais bonne en casting. Ouais. Et il y a un truc où il y a un petit blanc où on se dit au revoir. Et je fais bon, bah bientôt. Ou jamais de nouvelles. J'ai jamais de nouvelles de ce casting.
Mais ça, justement, c'est marrant cette fin de casting parce que je me souviens que quand, dans la même période que Mergie est là, j'avais fait un casting pour Coca, je me souviens.
Mais t'as tout fait toi. T'as fait carrière de mannequin.
Non, mais c'était un truc de rue aussi. J'avais fait un casting pour Coca et j'avais fait un truc bien amateur à la fin.
Un truc de rue.
Non, mais tu sais, quelqu'un était voir dans la rue quoi.
T'étais tout le temps dans la rue ou quoi?
Mais c'est où?
Il traîne exprès pour être remarqué. Il reste des 8h, 18h dans la même rue.
Excuse-moi, tu fais un casting de rue parce que je suis là.
En bas des agences seulement. Et en fait, j'avais fait un truc bien amateur à la fin du casting. Donc le casting s'était terminé et tout. Bon, je pense que j'avais été nul à chier et tout. Certainement même d'ailleurs parce qu'ils m'ont pas pris. Et à la fin, j'avais dit. Et donc, j'aurai la réponse quand? Et après, il me faut, bah non, mais si c'est bon, on vous rappelle.
Horrible.
Mais vous pouvez m'appeler pour me dire.
Non.
Mais tu sais, à ce moment-là, t'as 19 ans.
C'est si long.
Si vraiment c'est long, vous me dites quoi.
Non, mon tout premier casting ever, il était incroyable. J'ai un peu de temps pour la. Je peux intervenir ou pas pour,
Ah, mais bien sûr,
interviens.
Mais là, déjà, je sens que tu raffoles les petites interventions.
J'adore ça. Ouais. Mais là, j'ai pas l'habitude de parler, de me livrer. C'est cool de raconter des petits trucs. Premier casting de ma vie, c'est un truc en slip. T'imagines, premier casting, et je me rappelle, c'est une annonce.
En slip ou en caleçon?
Non, caleçon, boxer.
Boxer, ouais. Ah, voilà, boxer.
Et en fait, il y avait un site qui s'appelait Nawak à l'époque. C'est un site où tu pouvais mettre ton profil et il y avait des petits castings qui tombaient. Et ils cherchaient un gars athlétique, 20 ans, etc. J'étais athlétique de ouf à l'époque. Et je postulais. Dans la minute, elle me rappelle, tu vois. Elle me dit, est-ce que tu peux venir passer le casting? J'ai dit, ok. C'est une scène pour le film Divine. Je sais pas si tu avais vu le film Divine.
Ouais, bien sûr.
Ouais, c'était qui a eu un César et tout, qui a cartonné après. Donc c'était une scène pour ça, sans savoir que ça allait être aussi successful. Et je vais passer le casting, sauf que je mens dans les informations. J'ai tout tenté, il fallait faire 1m85, je mets 1m88, je vais m'acheter un caleçon à Monoprix, je me rappelle, je prends mon meilleur caleçon pour qu'il soit tout neuf, tout propre, tout beau, machin truc et tout, et je toque, enfin je vais au casting et je toque et tout, et je me rappelle, elle ouvre la porte, premier truc qu'elle me dit, elle me fait, tu fais pas 1m85,
oh,
je dis, non, vas-y, bon, tant que t'es là, vas-y, passe-le, et en fait, je passe le casting devant, genre, avec la directrice de casting, la réalisatrice, avec trois autres personnes, ce qui se fait pas trop d'habitude, mais il y avait grave du monde. Et je me mets en full caleçon et je fais ce casting qui avait l'air d'être...
Et tu devais faire quoi en fait?
C'est la scène où il y a l'actrice principale qui est avec son mec, qui est un dealer, et il va ouvrir une porte. C'était genre une espèce de silhouette parlante, rôle, tu vois.
Ouais.
Et c'est un peu sa muse en fait, à l'actrice principale.
Okay.
Et il va ouvrir une porte et il y a une interaction très, très bête, tu vois. Et voilà, j'avais fait ça et ça m'avait pas mal marqué, ouais.
Très bien.
Voilà.
On revient sur Prisoners pour quelques petites anecdotes, parce que figurez-vous que lorsque le perso de Hugh Jackman torturait le perso de Paul Dano, on en parlait tout à l'heure Sarah, Denis Villeneuve n'était pas assez satisfait de la violence dégagée par Hugh Jackman. Pour lui, la violence devait être encore plus explosive, car rien ne fout plus la haine dans la vie qu'un propre enfant kidnappé. Hugh Jackman a donc tout donné dans les prises suivantes, en particulier celle avec le marteau. On se souvient de la scène avec le marteau.
Et là, beau.
Et en fait, incroyable. Cette scène, quelques minutes avant, t'as Denis Villeneuve qui dit « Non mais imagine, c'est ton propre enfant, etc. » Et là, il est vraiment entré dans une sorte de colère et tout. Et c'est comme ça qu'il a réussi à avoir cette prestation de Hugh Jackman. Savez-vous comment Jack Gyllenhaal a préparé son rôle d'inspecteur? Parfois, on sait que les acteurs, ils font des petits trucs d'immersion comme ça pour les rôles. À votre avis, comment s'est préparé Jack Gyllenhaal?
Il était dans une grotte.
Comment, pardon?
Il s'est isolé,
dans une grotte.
Est-ce qu'il a travaillé à la police de Philadelphie?
Hein, presque.
Presque.
Il a fait des tours de bagnole en écoutant la radio de la police, non?
Non, c'est ouf. Mais presque ça. Et finalement, c'est un rapport avec la police. Il a fait un truc très très badant pour rentrer dans son personnage.
Ah ouais, ouais.
Il a fait un délit pour rentrer en prison.
Ouais, ce que j'allais dire.
Ah, non. C'est stylé ça. Ça
se passe tué un enfant. Ah
il a kidnappé un vrai gamin, c'est pour comprendre.
Ça pour voir un peu ce qu'ils font.
Ça se passe au sein même d'un commissariat. C'est-à-dire qu'il est allé au commissariat, enfin il est allé demander quelque chose au commissariat, ils lui ont donné quelque chose, et après il a maté ça chez lui.
Ah, ils lui ont demandé, il a demandé une cassette de tous les meurtres et autres choses comme ça.
Bah, presque.
Les entretiens, genre les.
Ah, c'est ouais, ça, Aurélien. C'est-à-dire qu'en fait, il a écouté, pour préparer son personnage d'inspecteur, il a écouté 100. Je sais jamais faire la liaison. 100 heures,
100 heures.
Ouais, on sait jamais trop en vrai.
La
c'est vrai. Il y a toujours un petit doute là-dessus. Brisons ce tabou, on sait pas trop comment dire.
Il prend une toute nouvelle tournure.
100 fois 60 minutes.
Non mais 100, c'est-à-dire que c'est pratiquement 4 jours sans dormir.
Ah, c'est
ouf. Ah ouais.
Il a maté 100 heures de.
C'est pas la même chose. Ils ont pas fait pareil dans Mindhunter.
Aucune idée.
Ah, dans Mindhunter, ou c'était quoi déjà la série? Il y avait Mindhunter, il y en avait une autre qui ressemblait un petit peu. Voilà, bref, une petite intervention pas...
Ouais, moins bien que les autres, celle-là.
Oui, bon, je peux pas être toujours au top. Bah, hein,
c'est qu'il y a une scène dans Prisoners où il refait ça en plus. Il remate ses interrogatoires.
Oui.
Mais
vrai.
Là, il essaie de chercher. Il va,
c'est vrai. C'est,
ouais. Ça se trouve, il a fait tout ça.
Mais surtout qu'il avait demandé pas les interrogatoires, t'es en conduite en état d'ivresse, quoi. C'est vraiment les interrogatoires de gars qui ont tué des enfants, etc. Un truc vraiment glauque, il s'est maté.
Ah, c'est ouf.
Ça pendant pratiquement 4 jours sans dormir, quoi. Ça, c'est fou. Donc, bravo, Jack Gyllenhaal.
Un détail que j'ai bien aimé sur le jeu de Jack Gyllenhaal, c'est qu'au fur et à mesure, là je l'ai revu il y a 2 jours, tu sais, il a des tics qui deviennent de plus en plus
présents. Ouais.
Et ça, je trouve ça fort parce que c'était presque la première fois que je voyais, tu sais, vraiment la dégradation physique. Et tu le retrouves aussi chez Hugh Jackman, où aussi, tu sais, il commence à être tout tiqué, tout fatigué.
C'est vrai,
il y a un truc au niveau du jeu, du visage, où tu sens qu'ils sont carrément dans le personnage. Ils deviennent, ça se voit qu'il y a une perte de sommeil et tout. Et j'ai rarement vu ça avant dans d'autres films aussi fortement, je trouve.
Non, c'est vrai. Il cligne des yeux, surtout. C'est
il cligne des yeux de fou. Et tu sens qu'il est en panique parce qu'il essaie de garder le contrôle et en même temps il s'énerve souvent avec le commissaire.
Ça le trahit souvent, ces tics. Effectivement, ils sont plus présents au moment où il y a plus d'émotion pour lui, etc.
Ouais, c'est le genre de truc que tu remarques quand tu revois le film.
Même quand il y a des vraies bagarres ou quand presque il y a des fusils. Et tout, tu vois ce truc où tu sais, il encaisse et en même temps, il est de plus en plus tiqué. On dirait presque Vincent Lindon quand il est pas bien, tu vois. C'est un
putain, c'est vrai.
Il y a quelques jours, j'ai fait quelques stories sur Insta où en gros, j'expliquais que j'aimais connaître le destin des vêtements, c'est-à-dire que j'achète beaucoup de vieux vêtements. Et en gros, quand j'achète un truc dans une fripe, que je reçois un truc que j'ai acheté sur eBay qui est assez vieux, j'aime bien essayer d'imaginer quelle vie a pu avoir ce blouson avant, parce que ce blouson a appartenu à plusieurs personnes, etc. Et c'est trop bizarre de se dire qu'on ne saura jamais à qui il a appartenu et quelle vie il a eu, quoi. Une vie aux États-Unis ou peut-être dans le Connecticut, etc. J'en sais rien, tu vois. Et bien, figurez-vous qu'après le tournage de Prisoners, tous les vêtements qui ont été utilisés dans le film, donc sur les persos de Hugh Jackman, Jack Gyllenhaal, etc., ont été donnés gratuitement à une sorte de boutique de seconde main en Géorgie qui s'appelle Fodak Thrift... Non, je l'ai très mal dit. Fodak Thrift Store. Non, mais comment vous dites ça? T-H-R-I-F-T.
Ah ouais, Thrift. Ouais, moi, je dis Thrift.
Comment tu dis ça?
Seconde main, magasin de seconde main. Ouais,
en Géorgie.
En Géorgie,
ouais. Surchap.
En Géorgie. D'ailleurs, en parlant de ça, alors aucun rapport, mais à l'époque où je vivais à Montréal, je me souviendrai toute ma vie de ça, il y avait eu des infos à la télé. Et en fait, c'était une info qui disait que. Parce qu'à l'époque, il y avait la guerre en Géorgie, je crois, quand j'habitais à Montréal. C'était entre 2008 et 2010. Et je me souviens qu'ils avaient fait un sondage aux États-Unis pour parler de la guerre en Géorgie, et genre 85%, c'est énorme, 85% des Américains pensaient que c'était la guerre dans l'État de Géorgie.
Ah, dans l'État de Géorgie.
Ah, ouais.
Et en fait, ils ne connaissaient pas l'existence du pays Géorgie, quoi.
Ça m'étonne pas.
Donc voilà, c'est ouf que 85% pensaient que c'était la Géorgie.
C'est chaud de dire qu'il y a une guerre dans ton propre pays.
Ouais,
c'est bizarre. Très bizarre. Tout à l'heure, Aurélien, tu disais qu'à la base, ce projet, il est passé de main en main.
Ouais.
Le premier, c'était DiCaprio qui était pendant très très longtemps attaché au projet, et finalement, il a tout lâché. Au final, c'était Mark Wahlberg et Christian Bale qui devaient jouer les rôles de Hugh Jackman et Jack Gyllenhaal avec Bryan Singer à la réalisation. Ça s'est pas fait. Et au final, c'est Villeneuve avec Jackman et Gyllenhaal. Mais Mark Wahlberg reste producteur sur Prisoners, figurez-vous.
Ouais, okay, je crois que c'est lui qui a grave poussé le projet et qui a prévu même que ça aille jusqu'à 2019.
Exactement.
Mais du coup, est-ce que le duo en vrai, Jackman et Gyllenhaal, c'est le meilleur peut-être des propositions qui ont
ouais, mais DiCaprio,
ça aurait été bizarre.
Mais en fait c'est intéressant ce que tu dis, Sarah, parce que très souvent, quand il y a un film qui est bon et qu'on aime bien, on se dit ok, personne d'autre n'aurait pu jouer Jackman ou Gyllenhaal. Sauf que dans une autre virtualité où, je sais pas, mettons, c'était qui là? C'était Christian Bale.
Tu dirais,
bon, allez,
Bale, ça aurait pu
être quelqu'un d'autre que Christian Bale. Quoi, tu
vois. Et Christian Bale, dans quel rôle alors? Dans le rôle de
Hugh Jackman?
En fait, ils le disent pas là, mais je pense que Wahlberg aurait joué le rôle de Jackman parce qu'il est un peu plus nerveux.
Ah, peut-être.
Et Christian Bale aurait joué le rôle de l'inspecteur, je pense.
En même temps, à l'époque, DiCaprio, tu vois, qu'on voit un peu angélique et tout, qui se retrouve à avoir le personnage du mec qui pète une durite, qui pète des choses.
Je pense qu'il aurait pu jouer l'inspecteur, DiCaprio. Non,
ah ouais, tu crois?
À la Shutter Island, un peu, tu vois.
Ouais, voilà.
Ah ouais, c'est l'époque.
Alors, l'anecdote qui suit, elle est drôle parce qu'elle est juste glauque, c'est trop marrant. Enfin, le perso de Alex Jones dans le film, c'est Paul Dano. Et Paul Dano, dans le film, il a une tante qui s'appelle Holly Jones dans Prisoners. Et ben, en fait, Holly Jones, c'est un hommage à une petite fille de 10 ans qui a été kidnappée et tuée à Toronto en 2003. Mais du coup, c'est trop bizarre parce qu'ils ont donné son nom au perso de la tante, qui n'est pas forcément le perso le plus sympathique.
Bah, c'est pas le plus sympathique. Qui a l'initiative de tout, finalement.
Ouais, mais c'est trop bizarre.
Ah oui, pardon. Excusez-moi, peut-être un peu...
C'est pas trop bizarre.
En ayant revu le film, il y a plein de choses autour du labyrinthe, tu vois, ça revient souvent, le truc du maze et tout ça, et des choses que tu pensais être la réalité, finalement, c'est autre chose. Et je pense qu'ils ont joué sur cette énergie-là dans tout le film, tout le temps, en fait. Où finalement, ce que tu pensais être, c'est jamais ce que c'est. Même les personnages que tu pensais être dès le début, les gentils ou les méchants, bah, finalement, ça change absolument tout le temps.
C'est vrai.
Peut-être que c'est ça aussi qu'ils ont encore voulu dire.
Peut-être. Et enfin, dernière info, petit hommage cette fois au film préféré du scénariste du film. Le film préféré du scénariste du film, c'est Les Incorruptibles de Brian De Palma. Et dans Les Incorruptibles, l'adresse de Sean Connery, c'est 1634 Racine Avenue. Eh bien, l'adresse de Holly Jones, encore elle, dans Prisoners, c'est 1634 Racine Avenue. C'est un petit clin d'œil à un de ses films préférés, qui est Les Incorruptibles de Brian De Palma. Pour les infos. On approche désormais de la fin de ce podcast, déjà. Mais avant de se quitter, le segment du dernier de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines. Mm-hmm. Première question pour toi, Paul. Le dernier film que tu as vu au cinéma?
Le dernier film que j'ai vu au cinéma, est-ce que le film que j'ai vu hier...
Bah oui, t'étais à l'Alpe d'Huez.
À l'Alpe d'Huez compte.
Bah oui, et puis en plus, c'est le film d'un ami, donc on peut en parler.
C'est ça, on peut en parler, Nous les Lois.
Bien sûr, ouais.
Très chouette, vraiment super, super film, très émouvant, drôle. José Garcia, Charlotte Gainsbourg, très bon, casting impeccable. Franchement, très très bon film, quoi, pour une comédie française efficace. Et j'adore Flaubert, et ce qu'il fait, c'est hyper fidèle. Il a pris tous les copains avec qui il a grandi sur YouTube, et ils font tous des petits rôles, des petits caméos, et c'est cool de tous les voir. C'était très... C'était émouvant, ouais.
On a hâte de voir ce film, ça sort le 10 avril. Le dernier film que tu as vu via une plateforme?
Salburn, sur Amazon.
Ouais.
Okay. Alors, tout le monde me conseille ce film, mais j'ai des potes aussi qui me disent...
Il y a eu tout un buzz autour qui fait que le film, au final, tu te dis, bon, enfin, c'était pas si ouf, quoi.
Ouais.
Mais il était cool.
Il y a du forcing quand même.
Moi,
j'ai deux, trois scènes là.
Il y a deux, trois scènes qui sont...
Bah, moi, on m'a dit, de ce qu'on m'a dit, je n'ai pas vu le film, on m'a dit, au bout d'un moment, genre, ça baisse tout le temps, c'est chiant, quoi.
Ça
baisse tout le temps, ça baisse surtout tout. Il y a vraiment
des trucs,
c'est
bizarre.
C'est surtout ça, non, mais c'est pas que ça.
Ce que j'ai aimé dedans, c'est l'image, c'est beau, c'est beau. Et les acteurs, moi, je suis fan, j'ai du mal à prononcer son nom de famille.
Keoghan ?
Ouais,
bah oui, c'est dur à dire.
Comme ça après.
Mais là, tu la pètes un peu aussi. Elle parle bien anglais quand même.
Je le trouve excellent. Bon, j'interviens.
Elle a interviewé Keanu Reeves.
Non, voilà, je l'ai trouvé excellent. Et,
très bien.
Et le film était cool.
La dernière série que t'as regardée?
Oh. J'ai le droit de dire des gros mots?
Ouais.
Vite fait, je casse les couilles à tout le monde avec ça. C'est The White Lotus.
Ah ouais?
J'ai commencé.
Je connaissais pas, je me suis mis ça. Je suis série, mais j'ai du mal à rentrer dedans parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Donc il faut que je arrive à me poser. Et j'ai enchaîné deux saisons d'un coup. Et j'ai trouvé ça super.
Alors, question, saison 1 ou saison 2?
C'est deux charmes différents, c'est deux photos différentes.
Ah, parce que c'est différent les deux?
Ouais, en fait, le concept est simple. C'est une saison, un hôtel dans un endroit différent. Donc, première, c'est Hawaï, deuxième, c'est en Sicile.
Mais avec les mêmes acteurs?
Non. Il y a une actrice qui revient, Jennifer Coolidge.
Ah, qui a eu l'Emmy, là.
Ouais, elle a eu l'Emmy, ouais, justement, pour la série. Et saison 3 en Thaïlande, je crois, ou en Asie.
Ouais, je crois, ils ont prévu.
Et non, c'est, en fait, c'est, scénaristiquement, c'est tellement bien ficelé. C'est,
mais elle, sa trajectoire, elle est trop drôle parce que c'est la maman de
Stifler.
Putain,
on la connaît pour ça.
Ouais, c'est drôle.
Ouais, The White Lotus, ouais. Je sais pas si vous avez vu.
Moi, j'ai commencé, j'ai pas accroché.
T'as pas accroché. Je peux comprendre que le premier épisode. Mais après, ouais. Moi, j'ai kiffé. Bon, voilà, après, c'est mon avis, hein, mais.
Moi, j'ai bien aimé.
Mais tu me donnes envie de les réessayer.
Mais oui, bien sûr.
C'est comme des longs films, en fait. Donc, c'est vrai qu'une fois que tu rentres dedans, t'as envie de savoir ce qui se passe avec les personnages.
C'est ça, c'est ça.
La dernière chanson que t'as écoutée.
La dernière chanson que j'ai écoutée. Je peux regarder mon téléphone ou pas?
Bien sûr.
Faut vraiment que ce soit la dernière, genre.
Non, en vrai. Alors, peut-être la dernière, mais en même temps, celle que t'écoutes en ce moment, ou vraiment celle qui arrive.
21 Savage. All of Me.
Très bien.
Voilà, son album qui est sorti la semaine dernière.
Très bon.
Ouais. Wow. Bulletproof my cars. Yeah. He a homebody, fuck it, kill him in his yard. Yeah. Niggas go to clubs and let down their guard. We got choppers out until we find somewhere to park. Pussy. Hit the cup and nod. 21. Trench hoes used to curb me, now they treat me like I'm God. Facts. I know you on my spot, but you don't wanna play your part. If it was up to you, you probably let these niggas start. Le dernier livre que tu as lu? La biographie de Paul Newman.
Ok, alors c'était bien.
Ouais, c'était incroyable. Moi, ça me motive comme celle de Matthew McConaughey aussi.
Ah, oh, je voulais la lire, elle est bien.
Ouais, c'est trop bien. En fait, je suis friand de ce truc-là. Je me mets à rêver et. Ça me fait du bien de lire ça parce que tu vois tous leurs échecs, tu vois toute leur vie à travers. Bah, c'est le but d'une autobiographie. Mais
est-ce que tu as une bonne anecdote sur la vie de Paul Newman?
Il y a un truc qui m'a marqué, c'est pas fou, mais c'est que toute sa vie, il a douté. Et c'est d'entrée, on t'en parle, il y a ce truc de doute, ou même si c'est un des meilleurs acteurs de du siècle dernier, de l'histoire du cinéma, ses proches qui témoignent disent que il a douté tout le long, quoi, jusqu'au bout, et je trouve ça fou de pouvoir se remettre en question, et alors que t'es un des meilleurs, quoi. Et ouais. ça m'a bien marqué.
Le dernier jeu vidéo auquel t'as joué?
Je suis un gars de Warzone, moi.
Ouais.
Je suis un gars de Warzone, la nouvelle saison, on joue pas mal avec les potes en ligne. Je suis un gros consommateur de jeux vidéo, mais ces temps-ci, il n'y en a pas qui me...
Tu joues à FIFA, toi aussi?
Ouais, FIFA à fond. Ouais, FIFA.
Moi, j'en ai marre de FIFA.
On a une petite équipe. On joue en Club Pro. Tu connais Club Pro?
Non, je ne connais pas, mais en fait, en vrai, c'est mon petit coup de gueule sur les jeux de foot. Déjà, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un monopole du jeu de foot parce qu'il n'y a que FIFA.
Il n'y a que FIFA, ouais.
Alors qu'avant, il y avait quand même 2-3 qui étaient proposés.
Ah, on avait PES, Virtual Soccer, tu te rappelles?
C'est ça, voilà. Tout ça, ouais. Et bon, moi, j'ai toujours été déjà plus Team PES que FIFA au travers des années. Et en fait, FIFA, il y a un petit côté qui m'énerve en mode. Tu fais 1000 gris-gris, puis le match il se termine en 5-4 et tout. Tu vois, il y a un peu un délire. Genre, si tu maîtrises les gris-gris, forcément tu vas gagner le match. Alors qu'avant, les jeux de foot c'était vraiment basé sur
construction, okay, tout ça.
Construction, ouais. Les passes et tout. Et moi, ça me manque un peu dans les jeux de foot.
Je suis grave un gars des gris-gris, moi en plus.
je détesterais jouer contre toi.
Pour la petite anecdote, on joue en club pro. Pour ceux qui connaissent pas, c'est on a une équipe avec nos potes et chacun a un joueur. Et en fait, c'est un truc collectif de ouf où on doit s'entendre. On joue à 10 des fois.
Mais attends, c'est trop marrant.
Personne veut être gardien, personne veut être défenseur central. Et voilà, attaquant. Et en fait, on s'amuse et on y joue presque tous les soirs.
C'est trop bien. Moi, je faisais souvent ça avec Midis, que quand on jouait à PES, quand il venait chez moi, très souvent, on jouait pas l'un contre l'autre, mais on jouait dans la même équipe.
Ouais,
c'est vrai, t'en as deux joueurs. Et en fait, c'est cool parce que tu vois, tu sais.
Ouais, il y a un vrai travail d'équipe, c'est cool.
C'est vrai, je trouve ça très cool. La dernière BD ou le dernier manga que tu as lu?
Dernier manga, pour ceux qui connaissent, The Fable. C'est si vous êtes manga ou pas du tout?
Non, moi je suis pas trop.
Non, je parlais d'ailleurs de Death Note, c'est la seule.
Death Note, t'avais regardé? Ouais. Petit chef-d'œuvre, Death Note. Non, The Fable, très cool. C'est l'histoire d'un tueur à gages qui est trop fort, qui est une légende dans le milieu du tueur.
Agagisme.
Tueur à gagisme, ça dit pas tout. Et son boss, il lui dit, il faut qu'on se calme parce que t'es trop fort et on va se faire un peu cramer. Je t'envoie pendant un an à l'autre bout du Japon et tu te fais discret, s'il te plaît. Et donc il l'envoie sous couverture avec un faux nom, fausse partenaire de vie, tout. Il met en place un truc et en fait, dès le début. Il tombe aux mains d'une mafia locale et lui il fait le bolos, en fait, tu vois, il fait le mec qui se laisse aller alors que tu sais que c'est le meilleur gars au monde, tu vois. Et c'est très comédique, très comique, et il se retrouve dans des situations de ouf où il peut pas utiliser ses talents et à un moment donné il craque et ça part en cacahuète et c'est tellement bien.
Bah c'est drôle parce que finalement c'est un peu la même histoire que History of Violence, parce que dans ce film là Viggo Mortensen, ouais, c'est genre le meilleur tueur à gages et il refait sa vie dans une petite ville et parfois les gens le prennent un peu pour un bouffon parce qu'il travaille dans un café. Et c'est marrant parce que les gens qui lui disent en gros vas-y vite un café dépêche-toi, s'ils savent pas qu'ils ont le plus grand tueur à gages de l'histoire.
On aime bien ce truc-là.
Ouais, j'adore. Parce que t'attends qu'il craque, qu'il soit en mode vas-y attends-toi là.
Il y a une scène dans le manga où il rentre et il est avec sa fausse sœur en fait, où ils sont alpagués par des racailles japonaises, tu vois, et il se fait tabasser. Et il fait rien, juste un moment il saute, genre, mais il a des aptitudes physiques hors normes et il saute de ouf et il se dit attends, chelou, il a fait un saut de 3 mètres. Et tu vois, au début ça commence comme ça et après il se libère totalement. Et... Non, c'est très cool.
Le dernier objet culturel que tu as acheté?
Le dernier objet culturel que j'ai acheté. Oh, j'ai acheté la vague Okuzai en Lego.
Ah, un tableau Okuzai en Lego. Okay. Ouais. Et alors, tu l'as fait?
Ouais, je l'ai fait. Ouais, je l'ai,
combien de temps?
J'ai mis 5 jours. Non, en fait, je faisais un petit peu chaque jour, tu vois.
Il y a combien de pièces dans le truc?
1900. Okay. Mais ça va vite, hein, ça va vite, c'est tellement bien. J'ai kiffé ce truc-là. J'ai pris une petite passion Lego, tu vois.
Bah, alors, tu vois, le dernier Lego, enfin, un des seuls Lego que j'ai fait dans ma vie, c'était la DeLorean. Je l'avais acheté genre il y a 7-8 ans quand elle était sortie, là. Et j'avais aimé aussi construire le truc. Sauf que ce qui m'avait saoulé, c'est que quand t'as le malheur d'oublier une mini étape, bah, faut que t'enlèves tout pour revenir deux heures avant, quoi.
Minutieux.
Ah, bravo.
Ouais, j'ai fait attention.
Bien joué. Et enfin, le dernier artiste que tu as suivi sur Insta.
Le dernier artiste que j'ai suivi sur Insta. Faut que je regarde. C'est un peu long.
T'as combien d'abonnés Insta? Enfin, tu suis combien de personnes sur Insta?
1005.
Putain, mais alors ça, j'ai jamais compris. Les gens qui suivent 1500 personnes.
1005.
Mais alors, comment tu fais pour t'y retrouver dans les stories des.
Bah,
des
c'est gens? Le problème, c'est qu'on met plus en avant certaines personnes de ma vie de tous les jours. Donc.
C'est ça.
Bah après avec les interactions ça met les prioritaires.
Parce que parfois je vois des gens ils suivent genre 3000 comptes.
Mais non ça c'est trop pour moi, je sais pas si vous faites ça mais c'est un peu trop tu vois. Non moi c'est juste des gens que j'aime bien avec qui je travaille et je crois qu'il y a un lien entre ton nombre d'abonnés quand tu passes la barre, c'est un truc vraiment précis que je veux dire, mais quand tu passes la barre des 1000 et quelques personnes que tu suis, c'est un côté, t'as rencontré un peu de monde et c'est que ça, je sais pas, il y a un côté que ça fonctionne un petit peu en fait, il y a des gens que j'apprécie, je pourrais enlever personne en fait, tu vois.
Mais moi je suis un peu parfois, tu sais, en fait il y a des gens, alors un peu comme tout le monde, mais parfois tu vas suivre des gens sur Insta et tu vas être en mode pourquoi je le suis déjà, tu sais, les stories me saoulent, genre, mais tu sais, t'oses pas trop l'enlever.
Ouais, il y a un truc
justement, je voulais t'en parler. Voilà.
Non, mais tu sais que c'est un vrai sujet de société actuelle, mais genre tellement nul, et en fait
tout, oui, c'est vrai,
ça touche tellement trop de gens. Si demain tu me follow, je vais être en mode attends, ouais, pourquoi j'ai fait quoi, oui, et ça, tout trop chelou, tu vois.
C'est vrai ce que tu dis.
Ouais, ça touche beaucoup de gens, il y a un truc qui s'est créé avec ça. Mais moi des fois, des gens en soirée, on s'ajoute comme ça et puis je parle pas pendant 2 ans.
Moi, parfois, j'ai vraiment envie de faire un ménage et me dire, ok, vas-y, juste envie de suivre, genre, 85 personnes, les 85 personnes que je connais vraiment.
Ouais, je serais pas dedans, putain, il est en train de me dire, gentiment que je vais. Il va tous nous virer, le mec.
Vous suivez combien de personnes, vous, sur Insta?
Moi, je sais plus, mais 300, j'ai fait.
Un truc comme ça, je crois.
Combien?
Ah ouais, t'es pas mal.
Combien, toi, Sarah?
300, truc comme ça.
Ah ouais, ouais,
je suis un peu comme toi, 300. Sarah. Moi, je suis à 280, un truc comme ça.
Mais tu sais, sur les tournages, quand tu rencontres plein de comédiens avec qui t'accroches, les équipes techniques, j'adore le HMC, maquilleur, maquilleuse, enfin, tout le monde, tu vois. Bah tu ajoutes des fois 20-30 personnes par projet, tu vois, et ça se passe bien.
Ouais.
Mais est-ce que tu follow des gens parfois par dépit, genre tu te dis je peux pas lui faire de la peine, vas-y, je
me mais tout le monde a fait ça.
Moi j'ai
toi tu as déjà fait ça.
C'est sûr.
Tu l'as fait pour moi ou pas?
Un peu.
Non, le kidnapping virtuel, il est incroyable. Tu connais le kidnapping? C'est des gens qui apprécient ton travail et qui te le disent, et en face de toi ils vont faire je te suis, vas-y, je te suis, on s'ajoute, et tout, et en fait c'est un truc horrible où t'es devant et j'ai trop d'empathie. Je suis en mode, faut trouver soit une technique pour partir, soit rentrer dans le truc et tu vas suivre. Et t'es en mode, bon, mais c'est des problèmes très futiles.
J'avais pas de réseau,
tu sais,
genre.
Ah, j'ai plus de batterie, ils voient 99% sur mon truc. Mais ouais.
C'est vrai qu'aujourd'hui, toutes nos interactions en vrai passent par les réseaux, parce que quand même, on utilise. Moi, il y a plein de gens avec qui je parle pratiquement que sur Insta et pas par texto ou pas par WhatsApp, quoi, tu vois.
Ouais, ouais.
Donc il y a vraiment ce truc où le social, enfin, les relations amicales ou même non amicales se font sur Insta, et comme tu as dit, si tu te désabonnes de quelqu'un, il y a un peu un côté de ah, mais quel enculé celui-là!
C'est une trahison, c'est une trahison.
Surtout les gars, imaginez demain, Insta explose.
Ouais, il n'y a plus rien.
Qu'est-ce qu'on fait? On envoie des pigeons voyageurs.
Je te jure, j'ai perdu mon Insta pendant 15 jours en septembre. J'avais un bug, j'étais en tournage dans le sud, dans un camping éclaté. Mon seul truc pour me rassurer, c'était Insta avec mes potes pour parler. Ils sautent. Je me retrouve à découvrir la vraie vie, tu vois, pendant 15 jours, et je te jure que. Il y a un moment donné où ton cerveau il abandonne l'idée et tu repars dans un truc un peu naturel. Ouais. Mmh. Au bout du 8e jour, je traînais dans le camping, grosse barbe, je traînais mes pieds comme ça. je parlais pas trop, tu sais. Ouais, je faisais juste des high.
Pardon, tu faisais des high avec le bras levé?
Ouais, c'est très bizarre. Waouh, raccourci de fou. Non,
j'étais un peu choqué parce que tu faisais.
J'ai fait un raccourci de baiser, c'est qu'il y avait plein d'anglais dans le camping et j'étais en mode high.
Non, non, vraiment. Il a littéralement levé la main.
pour faire un salut en fait. Waouh. Non, c'est vrai qu'il y a un truc où au bout d'un moment où t'abandonnes l'idée. C'était très bizarre comme expérience, ça m'a fait du bien.
Qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais en vrai, je pense que si demain Internet n'existait plus, si les réseaux n'existaient plus, comme t'as dit, on s'en remettrait au bout de.
Peut-être pas. Mais alors, les réseaux.
Peut-être pas la génération d'avant. Ceux qui ont genre 20-19 ans, pour eux, ce serait vraiment le cataclysme, tu vois.
Ah
moi,
ouais,
je pense que je m'en foutrais en vrai.
Mais il y a vraiment un truc où tu tombes dans l'oubli des gens. Tu vois, toi et moi, par exemple, c'est totalement les profils où si j'ai plus Insta demain ou que tu l'as plus, bah on arrêtera de penser à nous deux en fait, tu vois, on va juste arrêter de d'échanger, ça se trouve moi
des fois, c'est horrible. Non, mais c'est horrible.
Non, mais je te dis, c'est comme
ça. Non, c'est là, je dis ça pourquoi, c'est que quand j'ai perdu mon Insta, c'est vraiment il est resté 5 personnes quoi. Il est resté genre mes meilleurs amis et ma daronne, mon daron et tout.
Ah mais complètement.
Mais en fait, les gens que t'as l'habitude de voir sur Insta, ouais, ils pensent même plus à un moment donné quand t'as plus rien en fait.
J'avais lu une super...
Tu tombes dans l'oubli. C'est horrible.
J'avais lu une super étude il y a 2-3 ans, c'était une étude du New Yorker qui était très cool, où en gros ils expliquaient que l'être humain n'est pas fait pour avoir... Alors j'ai oublié le chiffre exact, mais l'être humain n'est pas fait pour avoir plus de 6 amis, je crois, ou 7 amis, un truc comme ça.
Ouais, je comprends.
Genre, et en fait, il y a un truc où, genre, quand les gens qui disent « Ouais, moi, j'ai 15, 14 amis », bon, ça n'existe pas, tu vois. Mais il y avait un truc où l'être humain, il, en fait, ça demande tellement d'avoir un ami, parce que tu prends des nouvelles, t'es là pour lui, etc. Et en fait, l'être humain ne peut pas, en plus de la famille, en plus du travail, en plus de plein de trucs, avoir plus de... Je me souviens plus du chiffre, mais c'était assez bas, quand même. C'était vraiment un truc, genre, 5 amis ou 4 amis, tu vois.
Ah, mais je comprends totalement. Même dans les interactions sociales, tu vois... par rapport à Insta, d'avoir trop de des fois d'interactions avec les gens que tu connais pas ou autre. Ouais, c'est vrai que c'est particulier, hein. On met beaucoup d'énergie dedans, je pense.
Ouais, c'est vrai.
Et les amis, ouais, pareil. Moi, j'en ai deux. Toi, le mec qui commence à se livrer.
De où
deux, c'est bien, c'est bien, deux.
Non, j'en ai un peu plus, quand même. Alors, j'en ai trois nouveaux devant moi. Là.
Non, en vrai, bonne question. Tu penses avoir combien de véritables amis?
Vrai amis.
Ouais, vraiment, où tu dis, c'est, tu vois, il y a vraiment ce truc de... C'est limite comme un frère, etc.
Bah, j'ai deux meilleurs amis, c'est deux frères avec qui j'ai un peu grandi, tu vois, ils ont un an d'intervalle. Et je passe toutes mes journées depuis l'âge de 13 ans, en fait, tu vois, ça fait genre depuis 2007 qu'on est potes. Et c'est limite, c'est ma famille, en fait, tu vois. J'ai des très très bons potes, j'ai des très bons amis. Là, ça dépasse le stade de l'amitié. Je pense qu'il y a ces deux-là, et puis autour, t'as 3-4 personnes où je peux faire confiance à 100%, tu vois.
Mais alors, c'est quoi le statut de ces personnes-là, alors, si c'est pas amis?
Bah,
entre potes et amis.
Ouais, c'est de l'amitié en vrai, c'est de l'amitié. Après voilà,
c'est la salle d'attente vers
l'amitié. T'as frère derrière, voilà, c'est ça, mais t'as ouais, amis, ouais, bon, j'en ai 4-5 quoi.
Sarah, t'as combien d'amis toi?
Je pense à peu près pareil, même moins. J'ai l'impression que plus le temps avance, moins j'en ai. Bah, ouais, c'est un tri de fou quoi. Alors qu'il y a quand j'avais 20 ans, mais c'était n'importe quoi.
Tu te rappelles,
ouais.
Je sors, était...
de fou. Non mais je sortais, j'avais on allait dans des bars, on était nombreux, etc. Et maintenant déjà aller dans les bars, ça me demande un effort considérable. Et puis comme tu dis, en fait, c'est épuisant aussi, tu vois, des énergies que tu dégages pour à partager, voilà, machin, il faut être équitable avec tout le monde. Je préfère en avoir 2-3 et être bien, etc.
Ouais, c'est vrai.
Et puis voilà.
Et quand tu te sens bien et que t'es à l'aise.
Exactement.
Je me souviens d'un épisode de Seinfeld où, en gros, dans la série, donc, il a 3 amis, c'est Ellen, Kramer et George. Et il va à la piscine et il y a un mec qui rêve d'être ami avec Seinfeld. Donc à chaque fois, il est là tous les jours, genre, ah putain, faut trop qu'on sorte, faut trop qu'on voit ça et tout. Et lui, il veut pas d'un ami en plus. Et un jour, ils sont comme ça. Sur un quai de métro, et il lui dit: gars, je veux pas d'un ami.
J'ai déjà trop d'amis.
C'est 3, c'est déjà.
C'est cette phrase, hein.
Mon truc est atteint, je veux pas un quatrième ami. Genre 3, c'est trop. Et genre les portes du métro se ferment comme ça, puis ils se regardent. C'est assez drôle. Toi, t'as combien d'amis, Aurélien?
Bah, je pense que c'est pareil. Déjà, je suis plus vieux, donc je pense qu'il y en a plein qui sont partis au fur et à mesure. Pas parce qu'ils sont morts, mais parce qu'on se voit moins. Parce qu'on se voit moins. Et ouais, je pense que ça se tient sur peut-être 5, je pense.
Ouais.
Bah, ceux qui durent vraiment dans le temps, tu vois, et que tu sais que tu as un historique et en même temps, vraiment, tu peux parler de tout, ils sont au courant de tout, ils ont vécu un peu des choses et tu as vécu des choses avec eux, tu vois. Mmh.
Parce qu'il y a vraiment amis et copains, parce qu'après, copains, tu peux en citer, j'imagine, mais vraiment ce truc-là, comme tu expliques.
Ouais, amis, frères, tu vois, des gens avec qui tu sais que ça se trouve, on va pas se voir pendant 5 ans et on va se reparler des trucs d'avant, on se connaît et tout.
C'est un bon débat, ça. Toi, t'es un peu comme ça? Moi, je sais que si la porte se ferme pendant 4-5 ans, tu vois, j'aurais du mal après à être entier et à retrouver un peu mon amitié avec la personne.
Ouais, ça dépend s'il y a un truc qui s'est passé ou si c'est juste la life.
Ah, voilà, c'est vrai.
Tu vois, si, par exemple, moi, je suis parti de ma ville, j'habite à Orléans et tout, je me livre. Mais je suis allé à Paris il y a 10 ans. Il y a pas mal de gens avec qui que je voyais quotidiennement à Orléans. Tu vois, là, je les voyais plus. Bah, là, je me rapproche d'Orléans et tout. Je retrouve les gars, ils ont pas bougé finalement. Et genre, je retrouve. Ce qu'on a vécu, ça n'a pas bougé non plus. Donc en fait, juste on se rapproche, je sais pas comment dire, mais de revoir des gens que tu n'as pas vu depuis méga longtemps, ça te permet de rationaliser aussi sur ce qui s'est passé dans ta vie où tu as l'impression que c'est devenu le truc le plus important, alors qu'en fait, eux aussi, ils ont fait des trucs super importants et on peut se retrouver au milieu, tu vois. Et ça,
très touchant.
Cool. Mais toi, JB?
Moi, je pense que c'est, peut-être 3-4. Mais moi, il y a ce truc où j'ai beaucoup de mal. Moi, je mets beaucoup de temps avant de faire passer le statut de pote à ami, en fait. Je suis assez méfiant et il y a ce truc où, pour moi, ami, c'est vraiment un... Comment dirais-je? quand la confiance elle est là à 100%.
Ouais, bah, c'est rare, hein, c'est très rare.
C'est très très rare. Ouais. Et en fait, moi je mets beaucoup de temps avant de considérer des potes comme des amis. Quoi. Ça prend vraiment un truc de ok, mettons là, ça fait, je sais pas, 10, 15, 20 ans qu'il n'y a eu aucune crasse entre nous, il y a eu. Ok, t'es mon ami. Quoi,
ah, okay. Ah ouais, t'es dur. 20 ans, t'es à 60 ans. Ok,
t'es mon pote.
Ah, on va mourir bientôt.
Oui, c'est long.
Non, mais vaut mieux être comme ça.
L'examen de passage est long et très long.
Tu sais, t'as des gens, mais je trouve ça trop intéressant tout ce qui est du niveau social. Il y a des gens qui se sont amis très rapidement. Et tu sais, les gens qui changent d'amis aussi, c'est assez souvent,
ouais,
faut s'en méfier.
Ouais.
Il y a un truc de.
Mais après, des fois,
qui...
ils ont plusieurs cercles d'amis. C'est-à-dire qu'ils en ont des très proches, puis après, ils en ont qui sont un peu interchangeables.
Ouais, tu vois.
Et pendant 6 mois, ils vont être à fond, puis après, ça va être 6 autres mois. Ouais.
C'est ouf ça.
Après, tu vois, moi, je me souviens. Que...
Gens que t'as fréquenté.
Et d'ailleurs, c'était un petit peu un tabou à l'époque au collège. Moi, je me souviens que. Et peut-être que c'est le fait d'avoir vu des séries comme Friends, etc. Mais je me souviens que j'avais beaucoup de mal avec l'idée de pas avoir plein de potes quand j'étais au collège, tu vois.
Ouais.
C'est-à-dire que j'avais à l'époque j'avais juste mon pote Mehdi, donc c'était encore mon meilleur ami aujourd'hui, et on agissait un peu en duo, et je me souviens que parfois je voyais des bandes de potes où ils étaient genre 10-15 et je me disais putain mais moi j'aimerais trop avoir ça, quoi. Genre j'ai un ami, et comme si un ami c'était pas suffisant alors qu'en fait c'était vraiment suffisant, tu vois. Ouais. Et il y avait ce truc où je sais pas, j'étais complexé de pas avoir 10-15 potes, et pendant très longtemps, genre mettons de mes 15 à mes je sais pas 17 ans 18 ans, j'étais là genre je suis en recherche d'une bande de potes, quoi, tu vois. Et en fait après avec le temps, bah tu sais, tu vieillis et tu te dis moi je connais plein de gens aujourd'hui qui ont plein de potes mais pas d'amis, tu vois.
Il y en a beaucoup, hein.
Mais tu vois, ils pourront pas compter sur un ami. Mais ils vont aller en soirée, ah comment ça va gars, etc. Ils ont grave plein de potes, mais ils n'ont pas un ami, quoi, tu vois.
Très touchant cette fin de podcast.
Grave, c'est super,
ouais,
c'est triste.
Mais non, mais du coup en vrai le truc c'est que parfois il vaut mieux avoir un ami
sur qui compter
plutôt
à fond.
Que 35 potes, quoi, tu vois.
Ouais.
C'est la moralité de ce podcast.
Eh, hey, je pensais à un truc.
Ouais.
J'interviens pour finir le. Non, je pensais à rien à voir, un film que on a un peu de temps encore, genre 3 minutes.
Vas-y.
Y a un film qui me. C'est pas sur la disparition d'enfants, mais je voulais en parler, le placer, parce que c'est un film qui m'a beaucoup surpris, je le connaissais pas. Ça s'appelle Contratiempo, L'accusé.
Ah, je l'ai pas vu.
Je sais pas si vous l'avez vu sur Netflix.
Avec un film espagnol.
Ouais, ouais, avec Mario, je sais plus comment il s'appelle.
Je sais pas du tout.
Et tu vois, depuis tout à l'heure, j'y pensais par rapport au twist final. Par rapport
là, c'est un beau twist.
Au thriller, à tout ça, et je vous le conseille. C'est
du coup,
qui nous écoutent,
c'est un film qu'il faut pas spoil.
Non, pour le coup, voilà, justement. Aucun intérêt, vraiment.
Ouais, mais du coup, alors j'ai une théorie là-dessus. C'est que parfois, quand on dit d'un film que c'est un film qu'il faut pas spoil, et ben ça le spoil un peu, parce que pendant tout le film, on s'attend à
un truc. Ah, tu cherches un truc.
Ouais, tu vois.
Mais le twist est bien amené.
Il est très bien amené. Très bien amené.
Enfin, personnellement, je l'ai.
Super film sorti en 2016.
Ouais.
Moi, je me souviens récemment, j'avais reparlé du film. J'avais vu The Village de Night Shyamalan au cinéma, et je me souviens que j'avais été complètement pris par la fin.
Ouais.
Je vais pas spoiler encore. Mais je me souviens que j'avais parlé à 2-3 personnes qui m'avaient dit « Non, mais j'avais grillé 20 ans avant. » Et du coup, tu te sens toujours un peu idiot. T'es là, genre, bah, moi non, jusqu'au bout.
En vrai, c'était les forceurs. C'est juste parce qu'il commençait à y avoir un truc dans la presse où il disait genre.
Oui, genre, à chaque fois qu'il y a un film. En fait, c'était le problème, mais c'était le propre piège de Night Shyamalan. C'est qu'à chaque fois qu'il sortait un film, les gens s'attendaient à ce que la fin, ce soit un.
Qui disait genre, un twist, encore un Night Shyamalan où il se passe un truc à la fin.
Ouais.
Oui, bon, d'accord.
Ouais, c'est vrai, certes. Écoute, c'était un plaisir, Paul,
merci
de faire ce podcast avec toi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu?
Sur mon actu.
Alors déjà, les films qui viennent de sortir là récemment. Tout à l'heure, je parlais de Stupéfiant Noël.
Ouais, depuis septembre, on a eu Narvalo, la saison 3 sur Canal+. On a eu Walking Dead sur Paramount. On a eu un Stupéfiant Noël sur Amazon. Et sinon, en termes d'actualité, je tourne une série en mars qui s'appelle Amour solitaire. C'est la saison 2. C'est une série qui sera dans deux formats, un format long, un format court. Je suis sur le format court. Ça sera sur Instagram, sur les réseaux, sur Arte à suivre. France TV/. Et j'ai la chance d'avoir tourné dans le prochain biopic sur Charles Aznavour.
Trop bien.
Qui sortira en octobre 2024.
Ah oui, mais je me souviens je me souviens des stories où t'as les costumes et tout. Je sais pas si c'était des stories en privé ou.
Non, c'est le costume, je l'avais mis en public. Ouais, j'avais rien mis d'autre, mais juste mon costume d'époque des années 30 était très stylé.
Ouais.
Et voilà, donc j'ai ça qui sort. C'est toujours des belles petites scènes dans des gros projets et ça me permet de construire un truc. Assez qualitatif et assez à ce truc. Alors et là... sinon, pardon.
Non, j'allais dire, non, sinon, vas-y, dis.
Et j'allais oublier, il y a une production Canal+, qui s'appelle Fleur Bleue. C'est un programme court de Enya Barou, qui réalise et qui écrit avec Martin Darondo. Super programme court qui sort court en février, voilà. Sur les plateformes, sur Canal+, Studio Bagel et tout.
Ah, c'est pas déjà sorti ça?
Si, mais c'est un épisode par semaine et le mien sort peut-être dans 2 semaines ou 3 semaines.
D'accord, ok.
Ouais, je suis au milieu de la saison.
Donc là, ça fait combien de temps que t'as commencé? L'acting, je parle.
Ouais, l'acting. Premier tournage, c'était septembre 2020.
2020, donc ça fait bientôt 4 ans.
Bientôt 4 ans, ouais.
Tu l'imagines comment la suite, là?
La suite, je l'espère très ambitieuse. cinéma, beaucoup de, j'aimerais bien faire du cinéma parce que je fais beaucoup de plateformes. J'ai juste Aznavour en cinéma. Mais sinon, premier rôle, j'aimerais décrocher un premier rôle ou second rôle cette année ou l'année prochaine. C'est mon palier. Chaque année, il y a eu un petit palier qui a été accompli et j'aimerais bien enfin passer le cap et montrer de quoi je suis capable.
C'est quoi le plus gros rôle que tu as eu jusqu'ici ?
Stupéfiant Noël, je pense.
Ouais, Stupéfiant Noël. Ouais. Ok, très bien. Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite, Paul.
Merci beaucoup.
Et c'était très cool que tu viennes. Sarah, carrément. Bravo pour ta chronique.
Merci.
C'est trop bien.
Sur les enfants kidnappés.
Et sur le film qu'elle a vu 18 fois.
Non, je sens que ça t'a donné envie de le revoir.
La vérité, ouais.
Tiens. Dès ce soir.
Très bien. Eh ben écoutez, nous, on se retrouve jeudi prochain. Voilà. Allez suivre Paul sur Insta. Ouais. Ton Insta, c'est
Paulidy.
Paulidy.
P-A-U-L-I-D-Y, très simple, un mot.
Voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Bisous tout le monde et on se retrouve jeudi. Bye.
Ciao. Fallait que je dise ciao à la fin ou tu pourras le couper ?
Non, c'est bien,
ciao. Cool.
2nd Quick Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.